Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Didibi et Hermione Pouéban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Puisque la solution existe.
Nous te disons infiniment merci, papa. Nous voici encore réunis ici ce soir pour apprendre encore de nouvelles choses. Qu'il te plaise, Saint-Esprit de Dieu, de nous enseigner encore ce soir dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous sommes là, nous avons besoin de connaissances. Parce que la parole dit que c'est faute de connaissance que nous périssons. Qu'il te plaise de nous enseigner ce soir au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle de toutes choses dans le nom de Jésus. Et je prie qu'à travers ces enseignements, Seigneur, que des couples soient restaurés et que chacun de nous, Seigneur, puisse comprendre ce qu'est l'utilité du couple, puisse comprendre quelle est ta volonté pour les couples, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons commencer. Je pense que le thème de ce soir, c'est conseil pratique, amoureuse et les fiançailles heureuses. Avant de commencer, d'aller sur le thème, on va toujours faire comme on a l'habitude de faire. Il y a deux questions qui m'ont été posées pendant la semaine après le dîner du samedi dernier. Donc, on va commencer par les questions avant d'entrer dans le vif du sujet. La première question, je crois... Quelqu'un m'a écrit et a dit « Comment reconquérir quelqu'un que l'on aime et qui est en train de partir ?» Et une autre question, je ne me rappelle plus de comment la question a été formulée, mais c'était de dire que on a dit que les femmes mariées ne doivent pas travailler. Et pourquoi est-ce que certaines femmes mariées, quand elles prient et demandent du travail au Seigneur, elles sont exaucées ? C'est ça, non ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ?
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Ma question est la suivante. Généralement, dans un couple, l'homme est plus âgé que la femme. J'aimerais demander si c'est toujours bien, par exemple, dans une relation, que la femme soit plus âgée que l'homme. Toujours une autre question. Les mariages interreligieux sont-ils conseillés, pardon?
Qu'est-ce que vous mettez dans l'interreligieux?
Je suppose, je suis catholique, par exemple, et bon, je tombe amoureux peut-être d'une évangélique ou bien d'une musulmane.
D'autres questions?
Bonsoir. Moi, j'ai un embarras. Hein. Je ne sais pas si ça doit être une question, parce que c'est le mariage vu du point de vue béninois.
Pardon?
Le mariage du point de vue béninois. Quand on prend la situation d'une femme qui veut aller en mariage avec un homme, généralement, on constate que pour la plupart du temps, ce que la femme béninoise, pour le cas que je connais, amène dans les relations de mariage, c'est sa faculté de procréer et éventuellement, hein, pour la plupart du temps, servir dans le ménage. Alors que le mariage suppose que, de part et d'autre, il y a une entraide, il y a un revenu qui contribue à la vie du ménage. Mais quand on se met vraiment dans le milieu, dans la pratique, On constate que la femme, quand bien même elle a la chance d'avoir quelque chose, ne veut pas s'impliquer sur le plan financier.
Donc pourquoi est-ce que la femme n'aime pas s'impliquer financièrement dans le ménage?
Voilà.
Bonsoir.
Oui.
D'après ma philosophie, et je pense
ça
que...
Ça s'appelle comment cette philosophie-là? Philosophie, comment il s'appelle maintenant? De Méchac, la philosophie du feu. On y va.
Et l'amour n'offense point, mais compense. Elle n'est jamais vieux ni envieux. On nous dit aussi que l'amour, c'est apprendre et attendre, comprendre. L'amour, c'est souffrir. L'amour, c'est tenir et l'amour, c'est souffrir. Ce monde où nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'amour?
Est-ce qu'on peut parler d'amour?
D'amour.
D'amour ou bien du vrai amour?
Du vrai amour, les deux.
Posez toutes vos questions. Faut pas venir me voir après pour dire que vraiment, j'avais oublié, je voulais pas parce que les gens me regardaient. Faut pas faire l'hypocrisie ici, faut parler.
Bon. J'ai un ami il y a deux jours qui m'a posé un problème.
Oui.
Il travaille dans une entreprise et la fille de son patron le drague. Maintenant, il se pose la question, est-ce qu'il faut sortir avec la fille ou refuser? Parce qu'il peut refuser et la fille peut lui créer des problèmes. Et s'il accepte, si son patron découvre, son patron peut lui renvoyer. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce cas?
Ok, moi j'ai une question. Alors, selon vous, quelle peut être ou quelle est l'importance déjà de la bague de fiançailles, par exemple?
Quelle
est l'importance de la bague de fiançailles?
C'est bon. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions?
Oui, question. Comment passer des fiançailles heureuses sans le sexe?
Une autre question? Oui.
Oui, et quelle est la plus belle preuve d'amour?
Quelle est la plus belle preuve d'amour?
Oui, selon des gens, en fait, chaque personne souvent dit que la plus belle preuve d'amour, c'est elle. D'après vous, quelle est la plus belle preuve d'amour?
Après moi, je suis Dieu. Mm-hmm. Quoi d'autre?
Je suppose, quelqu'un qui a une petite amie, vous avez décidé ensemble de vous abstenir jusqu'au mariage. Maintenant, voilà que lorsque vous vous voyez souvent seul, vous allez dans les embrassades, les caresses, tout ça, mais sans aller dans le sexe. Est-ce que vous trouvez ça bon? Sinon, comment faire et éviter de faire ça lorsqu'on se voit sans entrer dans le péché, quoi, un truc comme ça.
C'est bon.
Ouais, en fait, comment éviter une relation sexuelle avec la fille qui est dans la même maison que toi?
Vous vous connaissez comment? Il y a quoi? Et puis vous voulez éviter, c'est quoi? Il y a quoi avant?
En fait, on est dans la même maison, mais c'est pas moi, hein? C'est une maison.
Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, oui, comment éviter des relations sexuelles avec la fille qui est d'abord. Si la fille n'a rien avec vous, pourquoi vous voulez éviter les relations sexuelles? Elle va vous gifler. Il faut qu'il y ait déjà quelque chose d'abord dans l'homme, non? Ou bien? Et il faut bien poser le problème pour qu'on puisse bien répondre, pour que vous allez transmettre la réponse à celui qui est dans le problème. Ok. Comment éviter ou bien c'était déjà dedans, mais comment s'en sortir? Puisqu'il était déjà dedans, il a déjà commencé. Donc comment? Ce n'est plus évité, c'est sorti. Ah, ou bien même. Puisque le Saint-Esprit aussi est là. Oui, le grand.
Moi, je voudrais savoir seulement, quand on est en amitié avec une femme, ou une fille, ou en fiançailles, comment savoir si cela est dans le plan de Dieu?
Une autre question.
Je voudrais poser une question. Tu sors avec une demoiselle et vous êtes dit que, bon, vous voulez rester dans l'abstinence jusqu'au mariage. Avec le temps, bon, elle n'a pas compris, elle n'est pas dans la même réalité que toi. Et puis elle s'en va. Bon, tu retrouves une nouvelle demoiselle avec laquelle tu as débuté une relation amoureuse. Est-ce que bon, c'est bien de continuer dans la même logique?
Donc tu veux demander si demeurer dans l'abstinence avant le mariage tel conseillé ou non? C'est bon? Il y a d'autres questions? On peut y aller? C'est en mangeant que l'appétit vient ou bien? Voilà. Par rapport au thème conseils pratiques des relations amoureuses, pour avoir normalement des relations amoureuses et des fiançailles heureuses, il faut d'abord comprendre que l'homme et la femme ne fonctionnent pas de la même manière. Ça, c'est clair. L'homme, lui, dans sa tête, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, à la tête de l'homme, dans son cerveau là, le côté gauche du cerveau de l'homme là, il y a la logique. Et c'est plus développé. Le sens de la logique est beaucoup plus développé chez les hommes que chez les femmes. Mais la femme,
le côté droit de son cerveau là, ça s'appelle affectivité. Et ce côté chez les femmes est beaucoup plus développé que ça. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit, quand tu demandes à une femme comment tu as passé ta journée, tchaï, tu vas entendre beaucoup. Mais l'homme, son côté logique fait que dans le couple, si l'homme et la femme ne prennent pas connaissance de ce schéma-là, ils ne pourront jamais s'entendre. Parce que la femme va chercher à avoir l'homme qui sort, d'une histoire qui sort de conte de fées. Et elle aura tendance à vouloir dresser l'homme comme un chien pour lui plaire. Mais l'homme, parce qu'il est trop logique, il ne regarde pas les détails comme la femme. Donc, ils ne s'entendent pas souvent. Et parce qu'ils ne s'entendent pas souvent, avant d'entrer dans les liens du mariage, il faudrait savoir que la vie à deux, c'est deux personnes incompatibles qui se mettent ensemble pour apprendre à être compatibles, pour s'entendre à être compatibles. Parce que vous ne raisonnez pas de la même façon. Mais si vous pensez qu'on peut entrer dans le mariage parce que, comme on le dit, il y a les citations sexuelles, c'est pourquoi dès les premiers mois, les mariages ne résistent plus. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'homme et la femme, lorsque nous voulons apprendre un métier, nous acceptons d'aller à l'école pour apprendre ce que nous voulons être plus tard. Lorsque nous voulons conduire une voiture, nous allons vers les auto-écoles, on apprend à conduire. Mais pourquoi est-ce que lorsque nous voulons entrer dans une relation qui va durer toute une vie, nous ne voulons rien apprendre? C'est comme une voiture. Si vous n'apprenez pas les règles, les principes d'un mariage, vous y rentrez, au premier carrefour, vous allez faire un accident qui risque d'être mortel, qui va vers la casse. Donc c'est pourquoi avant d'entrer dans les liens du mariage, l'homme et la femme doivent savoir, ils doivent s'entendre. C'est un exercice, apprendre à vivre ensemble, apprendre à se pardonner, apprendre à dominer certaines situations, apprendre à supporter l'autre tel qu'il est et ne pas chercher à le transformer. C'est parce que la femme veut toujours transformer l'homme à son image qu'il y a toujours des problèmes. Encore que les hommes, ils n'aiment pas trop nous transformer, ils nous acceptent tels que nous sommes. Mais c'est nous qui pleurons à longueur de journée s'ils pouvaient simplement ressembler à tel, s'ils pouvaient être comme si. Donc, il faut savoir que la base, les fondements du mariage doivent être bien posés avant d'y entrer. Et pour répondre aux questions, on a dit, comment reconquérir quelqu'un que l'on aime qui est en train de partir? C'est une question difficile. Et quand la personne m'a écrit, je lui ai répondu en disant, c'est une question difficile. Est-ce votre épouse? Est-ce votre fiancée? Est-ce une amie? Est-ce une copine? Parce que le fait de connaître de quelle catégorie la personne est change toute la réponse. Ça change toute la réponse. Et je peux dire qu'on peut reconquérir quelqu'un qu'on aime et qui est en train de partir. Mais je demanderai simplement à la personne, je ne sais pas si la personne est dans la salle ou non, de bien vouloir me préciser par écrit comme je lui ai demandé, de me situer pour avoir une bonne réponse. Parce que si on doit se mettre à détailler les réponses par rapport à une épouse, par rapport à une fiancée, par rapport à un ami, nous allons perdre tout le temps. Deuxième question, pourquoi les femmes mariées prient pour le travail et sont exaucées? Et comme je l'ai dit, dans toute la Bible, il n'y a pas de femmes directrices d'entreprise. Il n'y en a pas eu, il n'y en aura jamais. C'était des femmes au foyer. Et comme je le dis toujours, c'est des femmes qui gèrent l'entreprise maison. L'entreprise maison a besoin d'une directrice. L'entreprise maison a besoin d'une directrice qui doit élaborer les plans d'action du budget de la maison. Les plans d'action pour l'éducation de la maison. Les plans d'action pour que le foyer soit en paix. Les plans d'action pour que le foyer soit exemplaire et soit solide, marche selon la volonté de Dieu. La place de la femme est à la maison. Je le dis, je répète, ça c'est clair. Mais pourquoi est-ce que Dieu répond? C'est vrai, il y a des femmes mariées qui prient, mais pourtant Dieu leur donne d'emploi. Rappelez-vous de Balak et de Balaam. Quand Dieu vous dit non, et que vous faites semblant de ne pas l'écouter parce que vous cherchez juste un argument ou quelque chose pour pouvoir faire ce qu'il a défendu de faire, eh bien oui, monsieur Dieu va vous dire oui, allez-y, vous y allez. Soit vous perdez la majeure partie de votre vie de mère, de femme au foyer qui doit vous procurer du plaisir, du bien-être, vous sacrifiez ça pour je ne sais combien de salaire, ou carrément vous y entrez, Mais ce n'est pas ce que vous voulez. Et rapidement, le foyer est à terre. Et rapidement, il y a des frustrations. Et rapidement, il n'y a plus le vrai amour. Il n'y a plus le vrai amour. Donc, pour répondre à cela, moi, je dis, c'est simple. Quand Dieu dit non, c'est non. Ne cherchons pas à dire Dieu, est-ce que, par exemple, il n'y a pas une issue par où on peut sortir rapidement? Est-ce que? Non, c'est non. Maintenant, la vie, c'est un choix. Parce que depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève ont goûté aux fruits défendus, l'arbre du connaissance du bien et du mal. Donc, il y a le bien, il y a le mal. À eux de choisir le chemin qu'ils veulent. Mais c'est la fin de toute chose qui justifie si l'on a raison ou pas. Je ne sais pas si j'ai répondu. Cette réponse est satisfaisante pour celle qui l'a posée? C'est oui ou c'est non? Ou bien il y a une autre question encore? Parce que ce que je dis, c'est clair. Lorsque vous êtes une femme mariée et que vous travaillez, vous ne pouvez plus jamais avoir le temps qu'il faut pour votre foyer. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas, quel que soit ce que vous allez faire, vous ne pouvez plus avoir le temps pour votre foyer. C'est impossible. Et comme on le voit toujours, je vous ai toujours donné des exemples, nous allons voir des justiciers qui ont des enfants, de grandes finances, de femmes qui sont dans les finances et autres, mais qui ont des foyers vitrines, parce que être dans les finances, gérer les finances d'un pays, ce n'est pas la blague. On n'a pas du temps pour son foyer, c'est impossible. Le foyer est vitrine, juste pour montrer que, bon, madame la ministre est mariée. Ou d'autres, vous allez voir d'autres financiers qui sont préoccupés par leurs charges ministérielles et qui sont obligés, bon, en tout cas, je ne parle pas de quelqu'un dont nous ne connaissons jamais le père de leurs enfants. Ce n'est pas des exemples à suivre. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir le patron et servir en même temps son mari. C'est impossible. C'est impossible. Et lorsque les femmes vont comprendre cela, je pense que les hommes, ils auront tous le boulot. Est-il bien que la femme soit plus âgée que l'homme dans un couple? Oui et non. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de femmes, selon les écrits, sont plus âgées que le mari. Mais pourtant, elles n'ont jamais levé leur petit doigt pour réclamer leur place, leur droit d'aînesse sur le mari. Et non, peut-être parce que dans la société, l'on dit toujours, ça c'est la société, c'est pas biblique, l'on dit souvent que la femme, le cerveau de la femme, à partir de 25 ans, se développe plus que le cerveau de l'homme. Et ça, c'est vrai. La femme est capable de beaucoup de choses. La femme réfléchit, elle peut faire beaucoup de choses, c'est vrai. Mais lorsque une femme plus âgée se met avec un homme qui n'est pas plus âgé, si elle n'a pas la crainte de l'Éternel, elle ne pourra pas tenir. Parce que très rapidement, elle va vouloir materniser l'homme. Je suis la maman, je suis plus âgée, je suis l'aînée. J'ai plus d'expérience et on doit faire les choses telles que je dis. Si elle n'a pas la crainte de l'Éternel, ce foyer ne résistera pas. Il y aura toujours de problèmes. Et elle aura acquis beaucoup d'expérience plus que l'homme. Ça, c'est clair. Et parfois, même parce qu'elle aura plus d'expérience que l'homme, il n'y aura pas de respect dans le foyer. Mais si cette femme a la crainte de l'Éternel, elle doit savoir que c'est dit clairement dans la Bible, l'homme est le chef de la famille, le pourvoyeur, le prêtre, le prophète de la famille. C'est le seul patron, c'est le seul porteur de pantalon. En griffe, hein? Oui. Si elle a la crainte de l'Éternel, qui est le début et le commencement de la sagesse, moi je pense que c'est possible. Mais dans le cas contraire, il faut faire très attention. Oui? Oui. Non, moi je ne peux pas donner personnellement l'écart d'âge qu'il faut. Si on prend la star Céline Dion et son mari, l'écart est énorme. C'est énorme, c'est quasiment son père. Vous connaissez cette histoire, je crois. C'est quasiment son père. Donc moi, oui, c'est ce que je dis. Je ne peux pas donner des cas, en fait. Ça peut être de 2 ans, ça peut être de 3 ans, ça peut être... Et généralement, quand les problèmes commencent là, surtout, même quand ça dépasse 2, 3, il y a souvent des problèmes. Donc moi, je ne peux pas donner des cas. Pardon. Oui. Oui, ça c'est mauvais. Pourquoi? Bibliquement, c'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? La Bible dit que tu ne dois pas découvrir la nudité de ton père, de ta mère, de ta sœur. Il y a beaucoup de choses, c'est Lévitique qui en parle, je crois. De ta sœur, de tel. Mais même si vous n'êtes pas de la même famille, elle est plus âgée. Pourquoi est-ce que vous cherchez forcément à aller faire ça? Et c'est pourquoi je dis que les relations aujourd'hui ne sont plus des relations amoureuses, mais c'est des excitations sexuelles. Parce que l'on ne peut pas entrer dans une relation avec quelqu'un sans comprendre. C'est impossible. C'est un choix.
Maintenant, il peut y arriver, parce que comme je dis toujours, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il y a des exceptions. Ça ne veut pas dire que la question est fermée, c'est non, c'est non, c'est non. Dieu aussi peut permettre d'une façon ou d'une autre, il y a plein de ces cas-là, hein, d'une façon ou d'une autre, que la femme soit plus âgée. Ça peut arriver. Mais si vous êtes jeune et que vous voulez sortir avec, vous voulez avoir une amie, une copine, et que vous vous rendez compte de l'écart d'âge qui est peut-être énorme et que vous n'avez pas de signe, vous ne présentez, vous sentez en rien que ce n'est la volonté de Dieu parce que vous voulez découvrir, vous voulez vous dire que bon, moi je sors toujours avec des gens plus âgés que moi, des femmes plus âgées que moi, c'est que vous êtes en train d'attirer la malédiction sur vous. Ça c'est clair. Oui, si volontairement vous décidez, parce qu'il y a des gens qui ont des choses à se prouver. S'ils veulent se prouver que oui, moi comme on le dit là, ma tante là, si c'est dans ma tante que tu veux être, donc tu as choisi ta voie et c'est des malédictions. Et ce qui est caché derrière, c'est ça, on voit aujourd'hui les grandes dames de notre pays qui cherchent toujours des petits, comment vous les appelez, les pompiers là. Ben, ils sacrifient leur vie pour juste du was. Parce que ces femmes-là souvent sont en alliance avec des esprits impurs qui réclament du sang vierge. Ou parfois dans leur alliance, on leur dit, tu dois coucher avec un plus petit que toi. Et on leur donne parfois même la tranche d'âge. Ça, c'est un jeu dangereux. Comme on le dit en fond, j'étais trop lourd. C'est bon? Oui? Oui?
Je disais tantôt que j'ai une question concernant le travail des femmes.
Mm-hmm.
Bon, on se rend compte que c'est une tendance générale aujourd'hui. On dirait peut-être que c'est le résultat de l'évolution, ou est-ce que je parlerais d'évolution ou bien d'involution de la civilisation humaine?
Mm-hmm.
Et nous sommes à une époque où c'est quasiment difficile pour des femmes. Surtout qu'on parle de scolarisation, encore que la scolarisation n'oblige pas une femme à travailler. Et puis toute la mentalité qui est répandue dans les institutions publiques, les institutions nationales comme internationales, concernant la femme. Est-ce que c'est vraiment possible qu'une femme puisse adopter le point de vue que vous défendez? Que je crois que c'est biblique, je suis d'accord avec ça. Mais ce point de vue intégré dans l'environnement actuel, comment est-ce que ça peut se gérer?
La vie, c'est un choix. Lorsque Dieu a créé Adam et il lui a envoyé Ève, il a dit, regardez, parcourez le jardin, faites tout, mangez de tout, mais attention à cet arbre. C'est la connaissance du bien et du mal. Si vous mangez, c'est la mort. Mais Ève a été séduite. Elle a mangé, elle en a donné à son mari. Et c'est pourquoi la venue de Christ, pour nous sauver par son sang. Et c'est pourquoi déjà la vie aujourd'hui, c'est un choix. Et même en matière d'évangélisation, quand vous allez... Est-ce que vous avez jamais vu, par exemple, Jésus, en allant évangéliser, quelque part, dire, « Ah, s'il te plaît, il faut venir ainsi. » Il n'a jamais négocié. Il n'a jamais négocié. Il te donne la parole. Si tu veux, tu viens. Et il a même dit à ses disciples, « Allez-y, qui vous reçoit, me reçoit. Mais si quelqu'un ne vous reçoit pas, secouez la pente de vos pieds, partez. » La vie, c'est un choix. La réalité étant différente de la vérité, et la réalité ayant couvri la vérité tout le temps, et l'homme, grand H, cherchant toujours à croire ce qui est compliqué, non ce qui est réel et facile, parce que pour lui, ce qui est réel et facile, ce que Dieu dit, c'est trop banal, ça ne peut pas être comme ça, c'est ça, c'est trop banal. C'est pourquoi on dit la vérité. La vie, c'est un choix. Aujourd'hui, dans la civilisation, dans la mondialisation, tout ce que vous voulez, les sciences là, les Européens, ils étaient les premiers à sortir leurs femmes de la maison. Ils étaient les premiers. Et ils nous ont contaminés. Et comme des crapauds, parce que une nuit, ils ont commencé par faire gris, rond. Les Africains aussi, sans comprendre pourquoi ils sont en train de faire gris, rond, nous aussi on a commencé gris, rond. La parité, la parité, la parité. Mais ils ont vite compris que c'est un jeu dangereux. Et ils ont commencé par envoyer leurs femmes à la maison. Actuellement, quand vous allez en Occident, quand une femme qui travaille accouche, par exemple au Canada, elle a 3 ans de congé de maternité payé. Ça s'appelle retour au bercail. Quand tu fais 3, ça te fait combien? Quand tu fais 5, ça te fait 15 ans de vie. C'est toute une carrière, tu es à la maison. Parce qu'ils ont compris que c'est pourquoi en France, vous allez voir, en France à midi, ils sont toujours entre 2 McDo. Ça, c'est pas une vie. Ils sont toujours entre 2 McDo. Parce que personne ne peut être à la maison. Les enfants sont confiés à la crèche. Papa n'a pas le temps, maman n'a pas le temps. Le premier qui sort va récupérer le bébé. Et si tout le monde sort tard, c'est que le bébé est retard. Il faut se payer des babysitters. C'est de l'argent, c'est une charge. Se payer la crèche, c'est une charge. Alors que ce n'est pas comme à Cotonou où vous avez votre boulot quelque part, papa, et puis vous résidez à Sacré-Cœur. Non, il faut courir. Sinon, vous ratez votre métro. Il faut courir pour être à l'heure. Tout ça, ça a un coût. Et quand ils ont compris que ça a un coût, ils ont compris aussi que le revenu, ce pourquoi les femmes sont sorties de la maison là, l'État leur arrache encore tout. Il faut payer telle assurance, il faut payer... Oui, ils gagnent beaucoup, mais c'est de la même façon que les assurances, les ci, les ça, les machins, machins. Même pour planter une fleur là, il faut payer son assurance. Ceux qui ont fait l'Europe sont ici. J'ai menti peut-être. Ça, c'est pas une vie. Ils ont compris que ce pourquoi les femmes sont sorties là ne règle pas le problème, mais au contraire, ça complique la situation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont malins, ils ont la tête pour réfléchir. Ils ont commencé par envoyer les femmes à la maison. Quand tu fais, prouf, 3 ans de congé payé. On te paye, et on te dit reste à la maison. Où est le problème? Oui, c'est fini. Mais c'est lorsque eux, ils ont compris les enjeux du problème. C'est en ce moment que nous, Africains, oh Seigneur, délivre-nous. Nous, Africains, cheveux noirs, peau noire, passant sous le soleil, nous voulons les imiter. On a commencé par faire des affiches, marchés de Cotonou jusqu'à Abomé. Et c'est aujourd'hui, maintenant, que l'on veut faire la promotion de la gente féminine. Ah, et c'est un chrétien qui décide de faire aujourd'hui la promotion de la gente féminine. Un soi-disant chrétien. Et aujourd'hui, au Bénin, la réalité est là. Quand vous êtes une femme, vous avez, je crois, 6 mois de congé avant et 8 après, 6 semaines plus tôt, pardon, 6 semaines avant et 8 après ou bien 4 après, je ne sais plus trop. 14 au total. Ça voudrait dire que ça fait que des femmes enceintes sont obligées de supporter leur grossesse sans repos jusqu'à l'accouchement. Il y en a qui accouchent sur des lieux de travail. Et alors que les médecins savent pourquoi on veut que la femme enceinte se repose 6 semaines avant et 8 après. Parce qu'il y en a déjà à partir du 6e mois, on leur colle qui sont ouverts, ne peuvent plus rien faire. Il y en a déjà à partir de 6 mois, les risques, la femme enceinte est déjà très exposée pour travailler. Il y a le problème d'humeur qui se pose. Elle peut se sentir aujourd'hui à l'aise, le matin, bien, dans sa peau. Mais demain matin, c'est tout un problème. Et c'est pourquoi l'administration aujourd'hui est paralysée. Parce que quand vous avez ces gens de femmes vraiment pour te servir, quand tu vas des guichets, ça se passe souvent à la poste, quand tu vas des guichets, elles prennent des heures et des heures pour te servir. Donc, elles se sacrifient en fait jusqu'à la dernière minute avant de prendre leur congé. Et ce qui a été partagé par les médecins, on les met ensemble pour prendre après. Même si ces femmes-là prennent leur congé après, le bébé a 2 mois et demi pour que la femme commence à travailler. Même pas 3 mois. Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu sait déjà là où il m'amène, que j'ai ma mère qui est de la santé. Elle s'en est toujours bien occupée pour que moi je puisse aller travailler. Mais il y en a, on voit les bébés sont abandonnés à des domestiques, à des filles de ménage de peut-être 14 ans qui n'a jamais fait d'enfant, qui ne sait pas ce que c'est qu'un bébé. Et l'enfant est exposé. Le couple est exposé. C'est pourquoi je dis la vie, c'est un choix. Et vous commencez le boulot lorsque votre bébé a 2 mois et demi. Et on vous dit, bon, vous avez 1 heure de... Comment on appelle? D'heure de nourrice. Foutaise. Alors que 1 heure ne suffit même pas pour laver le bébé. Oui. 1 heure de temps ne suffit pas pour laver un bébé de 2 mois. Non. Et quand vous faites ça, c'est que plus vous évoluez, plus les problèmes sont là. Le bébé a 1 an, copie les sales habitudes des domestiques, des voisins, sont sous l'influence des voisins, résultat impoli. Et puis, au jeune âge, il devient délinquant. Il est dehors. Ou l'enfant développe l'hypocrisie parce que les parents ne sont pas là. Et c'est pourquoi moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai démissionné de la fonction publique, je suis à la maison. Je travaille avec mon mari est mon patron. Donc, je peux rentrer quand je veux, ne pas venir, venir au boulot quand je veux, parce que je m'occupe de l'entreprise maison. Et quand je finis, je rentre. Je n'ai pas de pression, je n'ai pas d'influence. Ce n'est pas que les femmes ne vont pas travailler. Par exemple, une femme comme moi peut travailler avec son mari, n'est plus sous l'influence d'un patron à 18h30. Sa connaissance, elle peut mettre ça au service de son mari. Parce qu'on dit, c'est celui qui est derrière qui voit plus loin que celui qui est devant. Oui, parce que quand la femme est là à la maison, elle peut aussi aider son mari de par des constats. Parce que les hommes ne font pas très attention. de par des constats. Et si on faisait... Je vais vous donner un exemple. Mon mari devait rencontrer quelqu'un aujourd'hui à qui il doit demander un service. Et il dit, bon, je vais lui demander le service, mais j'ai bien envie de lui offrir un présent. Ça me plaît. Je dis, oui, c'est normal, pourquoi pas. Et il en a parlé avec un autre de ses amis. Et quand il en a parlé avec ses amis, un de ses amis, l'ami lui dit, je suis très ami à celui vers qui tu es en train d'aller. Et je pense que si tu veux lui offrir un présent, il ne sera pas d'accord. Je veux que tu ailles le rencontrer et remets-moi ce que tu veux lui transmettre. Et moi, je lui transmets par la suite, tu ne peux pas me dire non. Et c'était une communication téléphonique. Hein? Et j'étais couchée. Quand j'ai appris, j'ai dit, mais tiens, pourquoi toi tu vas lui remettre et lui il va remettre. Arrivé là-bas, là, après tout cet union, hein, remets-lui. Quand il dit non maintenant, tu vas lui dire, je connais tel ami, nous avons tel ami en commun. Je lui remettrai, il viendra te remettre. Mais quand il est parti, il a remis, la personne a pris fiam, fiam. Bon, je ne doute pas de l'honnêteté de cet ami. Mais cet ami peut diminuer. Il peut ne pas transmettre. À qui il va dire? Personne. Et quand je lui ai dit, il dit, ah, mais ce que tu dis est pertinent. C'est vrai. Je pense qu'arrivé là-bas, je vais lui remettre. Je lui ai évité quelque chose. Et si à l'heure où il me parlait, à 10h, madame la directrice est déjà au bureau, ou madame la ministre est au bureau, je lui ai peut-être perdu un demi-million cette journée. Donc, soit on décide de suivre Dieu qui nous a créés, le créateur de tout être humain, qui a mis notre manière d'utilisation là, ce qu'il a dit, nous regardons dans la Bible et on pratique. Ou soit, la vie c'est un choix, on décide. Si ça plaire à quelqu'un, la personne n'a qu'à l'essayer. Mais si ça ne plaît pas, tant mieux. À la fin, on nous demandera des comptes, ça c'est clair. Et c'est pourquoi on dit la vérité, même en vous avons dit, la vérité blesse. La vérité ne fait pas plaisir. C'est pourquoi, et comme je le dis toujours, chaque fois je vais toujours dire, quelqu'un m'a déjà dit ici, moi femme, j'ai mon master. Ou bien, ça dit la façon dont elle disait ça le jour-là, hein, si elle était, elle pouvait même me gifler, elle allait me gifler. Oui, c'était dans cette salle ici. Il y a des gens qui sont témoins. Et tu quoi? C'est quel enseignement ça? Je n'ai jamais entendu ça. Moi je suis née dans l'église. Je vais à l'église. On ne m'a jamais dit ça à l'église. Hein? Et chez mon mari, on me dit de rester à la maison. Je ne resterai jamais à la maison. Et après ça, elle est partie. Que le Saint-Esprit éclaire. Qu'elle ne fasse pas l'expérience avant de comprendre que c'est une vérité. Et il y a de cela peut-être, je dirais encore, j'ai démissionné, ça ne fait pas beaucoup de temps, hein? Disons 5 ans. S'il y a 5 ans encore, ou 6 ans, on me disait ça, ah ben non. Je ne peux pas croire. Et c'est ça qui casse le foyer. Vous allez voir, quand la femme commence pas à travailler, comme je l'ai dit le samedi, elle est sous pression. Harcèlement sexuel, sous l'influence de son patron, les collègues, les changements d'humeur, et tout. Vous allez voir, il y a beaucoup de femmes, si vous les interrogez dans les administrations, elles ne peuvent même pas vous compter le nombre de grossesses qu'elles ont perdues, juste par amertume, par stress. Oui. Et tout ça pourquoi? Pour 50 000. Si c'est trop, c'est 200, c'est 300. Est-ce que ça vaut le coup? Mais nous, on n'a pas encore compris. Et je vais profiter rapidement pour répondre à une question qui m'a été posée très, très rapidement. Pourquoi les femmes ne s'impliquent-elles pas financièrement dans le ménage? Elles ne peuvent pas. Si elles veulent, c'est bon. Parce que quand je dis la femme ne doit pas travailler, si la femme a un mari, bon, peut-être qu'il fait un métier où elle ne peut pas l'aider, mais elle peut faire des activités à la maison. Elle peut faire son petit commerce à la maison qui va lui générer des fonds. Et si ça lui génère des fonds, elle peut, si elle veut, elle peut contribuer à la charge de la famille. Mais ce n'est pas le devoir de la femme de s'impliquer financièrement dans la famille. Non. Parce que, attention, lorsque vous vous mettez là et vous voulez que les femmes d'aujourd'hui, du Bénin actuel là, nous allons laisser d'abord la Bible, nous allons parler du Bénin actuel là d'abord, avant de revenir dans la Bible. Quand vous prenez une femme qui s'implique dans les charges financières de la maison, elle va dénoncer, mais, ah ben non, elle va vous rappeler, ah oui, mais après tout c'est moi qui paye l'eau, hein. Après tout c'est moi qui donne à manger ici, là. Et ça peut banalement amener des femmes légères à l'adultère, très très rapidement. Très, très rapidement. Je vous ai raconté une histoire ici. J'ai dit, il y a un monsieur marié. Même quand il n'a pas d'argent, parfois quand il donne 2 000, un jour, il a donné 2 000, sa femme a fait la sauce. Quand la femme a fait la sauce, Il y avait du fromage, il y avait les peaux de bœuf là, il y avait des crabes et un peu de sésame, tout. Parce que elle, bon, elle aussi, elle a fait ses activités et tout, et elle a essayé d'ajouter de l'argent. Quand le mari est rentré, elle a dressé la table pour servir son mari, normalement. Le monsieur, il mange. Il y avait aussi du poisson. Il a mangé le poisson. Il a regardé tout ça là. Il a mangé seulement le poisson avec la sauce et la pâte. Il a laissé les histoires de sésame, de peau, de machin, de fromage, machin, machin. Il a mis ça de côté, il a mangé. Et il s'est levé. La femme vient dire, pourquoi tu n'as pas mangé tout ça là? J'ai fait ça pour toi. Mais pourquoi? Il dit oui. J'ai donné 2000. Et dans la vie actuelle, je sais ce que 2000 peut faire. Ça là, ça dépasse 2000. Là où tu as trouvé, amène ça là-bas. Et la femme dit, mais non, c'est parce que j'ai fait telle activité, c'est parce que j'ai vendu telle chose aujourd'hui, j'ai voulu te faire plaisir et j'ai fait telle chose. Et l'homme lui dit, non, si tu veux me faire plaisir, demande-moi mon avis. C'est pas que c'est mauvais, mais demande-moi mon avis. Parce que toi, femme, jusqu'à ce matin quand je partais, il n'y avait rien. Mais tu ne peux pas me dire subitement que, bon, c'est ci, c'est ça. Oui, cette histoire, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Mais quand vous voulez que la femme s'implique, c'est là où il y a certaines femmes, elles vont vous dire sous prétexte que, bon, je suis en train de vendre, sous prétexte que ci, sous prétexte que ça. Et j'ai même un problème que je suis en train de gérer actuellement. Et je vous demande en même temps de me soutenir beaucoup en prière pour que je puisse sortir vraiment cet homme-là de cette situation vraiment difficile dans le gouffre dans lequel sa femme l'a mis. C'est un monsieur lettré qui est tombé sur une femme prostituée. Parce que moi, j'appelle ça prostituée. Serveuse de bas niveau et tout. Il a pris parce qu'il n'était pas là, il était à l'extérieur, il est rentré, il a vu, il ne connaissait rien de la femme. Pour ceux qui veulent s'unir dans les rues de Cotonou, m'aimes-tu? As-tu envie d'aller au lit avec moi? Oui, c'est ma femme là. C'est à vous que je parle. La femme d'une nuit, la fille, la prostituée d'une nuit, est devenue sa femme. Et tout de suite, la prostituée s'est rendue compte qu'elle est une prostituée. Et si jamais ce monsieur découvre qu'elle est une prostituée, elle n'a plus la chance de devenir sa femme. Et si déjà, elle ne profite pas de cet homme, c'est sûr qu'elle n'aura plus d'autres hommes. Alors les pratiques occultes ont commencé et tout. Et ils ont pourri la vie du monsieur. Jusqu'à un certain niveau. Bon, lui-même, il a bien mangé, hein, et puis bon, c'est dans son sang. Il ne connaît pas Christ, c'est pas un chrétien. Jusqu'à un moment où le monsieur, bon, à chaque projet, à chaque initiative, quand il veut travailler, il échoue toujours. Il ne sait pas pourquoi. Et ses frères ont décidé de le faire voyager, parce que les frères sont à l'extérieur. On l'a fait voyager. Il est allé en France, il est revenu bredouille. Il est resté encore 8 ans au Bénin. Il est reparti aux États-Unis. Il a fait, je crois, 6 mois, il est venu. Il est reparti une deuxième fois. Et il est revenu au Bénin une deuxième fois aussi. Il a fait 3 mois. Il repart pour la troisième fois aux États-Unis et à l'aéroport de Washington. Tenez-vous tranquille. Un policier lui dit, vous avez fait plus de temps dans notre pays que dans votre pays. Retournez. Et on l'a remis encore dans le premier avion. Est-ce que c'est possible? Ça là, est-ce que c'est possible? Si ce n'est pas une main visible, il est revenu. Parce que la femme sait que si jamais cet homme restait là-bas, elle a perdu le mari. Il faut que le mari revienne. Et pendant que le mari était là-bas, bon, elle se prostitue au vu au-dessus de tout le monde, de la famille et tout le monde. Et c'est ça. Mais ce monsieur, le samedi dernier, quand on était ici, a décidé de se suicider. Il a décidé de se suicider. J'ai appris la nouvelle, je l'ai appelé. J'ai dit, pourquoi? Il dit, c'est beaucoup de choses. Je dis, ok. Est-ce que tu veux que je te rencontre pour qu'ensemble, on puisse trouver une solution? Il a dit, oui. Donc, on s'est donné rendez-vous le dimanche. Et le dimanche, je l'ai rencontré. J'ai dit, maintenant, explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, oui, je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, à 48 ans, je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas de boulot. Quand je regarde en arrière, j'ai vu que j'ai perdu beaucoup de mon temps, mais l'avenir est sombre. J'ai des enfants, je n'arrive pas à m'occuper d'eux. Et qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je regarde tout ça, je me demande, est-ce que je vais mourir comme ça? Et c'est là où je lui ai dit, ton problème, si tu veux que je te dise la vérité, dis-moi. Mais si tu n'as pas envie d'écouter la vérité, dis-moi en même temps, je te donne de l'argent pour régler ton problème, tu pars. Mais si tu as envie de régler le problème, il dit oui, qu'il veut régler. Je dis oui. Mais là, nous allons passer à l'étape de nettoyage de la plaie. Parce que je ne vais pas acheter simplement une boîte de banéosin pour te mettre ça dans la plaie. Non, je ne t'aurais pas aidé. Il faut qu'on nettoie. Et lorsqu'on est en train de nettoyer, ça fait mal. Et lorsqu'on va finir de nettoyer, c'est là où on va utiliser un produit pour cicatriser la plaie. Et on saura qu'effectivement, on a réglé tout le problème. Il m'a dit oui. Je lui ai dit oui, tes problèmes viennent de ta femme. Parce que. Il n'en revenait pas. Et là, il m'a dit, parce qu'elle ne fait plus d'activité. Elle n'est plus commerçante. Mais aujourd'hui, quand je vois la façon dont elle nous aide dans le foyer, je n'ai pas fait attention. Et dans nos traditions, lorsqu'une femme commet l'adultère, encore que si c'est une femme, c'est pas une femme, c'est une prostituée, parce que vous l'avez retrouvée dans la rue, sans l'avis de personne, sans demander à personne, vous avez pris comme un billet de loterie, vous amenez à la maison, vous ne l'avez pas dotée, vous n'avez pas fait le mariage. Le mariage, c'est normalement la dot. Les quatre familles ne sont au courant de rien. Si cette femme se prostitue, il n'y aura rien. Rien ne va se passer dans notre tradition. Parce qu'on dit en fond, « Aseito eletouia », c'est-à-dire, ta maison ne la reconnaît pas comme femme. Elle va faire, rien ne va se passer. Clion, rien du tout ne se passera. Rien du tout ne se passera. Hein. Oh. Au contraire, l'homme va mourir, oui. Et elle sera toujours en vie. Et là, il dit, ça c'est vrai. Et quand il a commencé par chercher, par filer, c'est là où il s'est rendu compte que cette femme qui avait déjà une fille de 18 ans avant de venir l'épouser, la fille n'avait pas 18 ans en ce moment-là, mais aujourd'hui elle a 18 ans, la femme continue toujours pas à fréquenter le père de cet enfant. Donc, l'homme garde l'enfant de l'autre, ses enfants et tout, et c'est le cocu au vieux sud des autres. Regardez, fait monsieur le mari. Alors que, et réellement, j'ai vraiment besoin du soutien du Saint-Esprit pour régler ce problème. Et je vous demande sincèrement de vraiment intercéder pour moi, afin que le Saint-Esprit me permette, parce que moi, je n'ai pas de force. Qu'est-ce que je peux faire toute seule? Que le Saint-Esprit organise les temps et les circonstances pour réellement le sortir de ce problème. Encore qu'il y a d'autres choses que je n'ose pas vous dire. Quand la femme va commencer par s'impliquer, quand ça devient devoir pour elle, c'est là où vous allez commencer par vous battre devant les enfants. C'est là où elle ne pourra plus du tout vous respecter. Vous serez un jouet pour elle. Maintenant, si nous revenons à la Bible dit que c'est l'homme qui est le maître, le chef de la maison. Un chef, c'est celui qui donne des ordres. Un chef, c'est le prêtre. C'est le premier responsable. Un chef, c'est le pourvoyeur. Un chef, c'est celui qui coiffe. Un chef, c'est celui qui a d'autorité. Et selon le plan de Dieu que j'ai eu déjà à donner ici, la femme est faite dans le plan de Dieu pour s'occuper de l'éducation des enfants, rester à la maison, tout ça là. Et l'homme, lui, va travailler. Il vient, il pourvoit aux besoins de sa famille. Donc, ça, j'ai dit non, non et non. Quelqu'un a encore une question par rapport à ça? C'est bon? On peut continuer? Le mariage interreligieux est-il conseillé? Oui, Dieu n'est pas dans les religions. Mais attention! Interreligieux, oui, mais attention, Dieu n'est pas dans les religions. Et c'est sûr que lorsque nous allons nous retrouver au paradis, c'est sûr qu'il y aura des musulmans, c'est clair. Il y a des gens qui ne vont dans aucune église et qui vont se retrouver là-bas, c'est sûr. Parce que Dieu n'est pas dans les religions. Maintenant, si c'est pour demander si quelqu'un est chrétien, catholique, qu'est-ce que vous avez, si vous avez Christ en commun, si vous êtes convaincu que cette personne-là n'est pas enfermé dans les idées religieuses et que c'est Christ que la personne a réellement reçu, quelle que soit sa religion. Et ça fait partie des sacrificateurs à la maison de Lévi. Quand dit un homme de Lévi a pris pour femme une fille de la maison de Lévi, un chrétien a pris un chrétien. Mais attention, vous-même vous savez que les musulmans n'accepteront jamais, jamais au grand jamais, que quelqu'un quitte là-bas pour venir épouser quelqu'un d'ici. Et ben, à moins que tu veuilles toi-même perdre quelques années de ta vie pour faire l'expérience. Ça ne marchera pas. Parce que vous n'avez pas les mêmes visions. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez même pas la même parole. Parce que les autres n'ont que l'ancienne alliance. Mais nous, comme l'a dit quelqu'un aujourd'hui, nous sommes des enfants du nouvel Adam. Nous avons Christ en nous. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la nouvelle alliance, l'ancienne alliance plutôt, est la préfiguration de la nouvelle. La nouvelle est venue compléter l'ancienne. C'est comme si je vous prends debout et je dis j'ai juste besoin de votre pied droit et de votre pied gauche. débrouillez-vous pour faire partie votre main droite et puis votre pied, je sais pas, droit. On peut pas prendre tel et laisser tel. Soit vous prenez, soit vous laissez. Mais le mariage est tellement délicat que il faut vraiment s'entendre, c'est-à-dire comprendre ce qu'est. C'est comme je disais tout à l'heure. C'est comme on veut apprendre un métier, on veut faire quelque chose, apprendre à conduire. Il faut le permis. Si tu n'as pas le permis d'entrer dedans, et puis tu rentres, tu sombres. Au premier carrefour, tu fais un accident. Ça, c'est clair. Parce que j'ai dit tout à l'heure, la vie à deux, c'est deux personnes incompatibles parce que vous venez de divers horizons, vous n'avez pas reçu la même éducation, vous ne fonctionnez pas de la même façon. Deux personnes incompatibles qui décident de se mettre ensemble pour apprendre à être compatibles maintenant. Mais si c'est seulement sur les situations sexuelles que les gens se marient là, rapidement ça se casse. Parce qu'il n'y a rien de bon là. Pourra-t-on parler encore d'un vrai amour aujourd'hui? D'un vrai amour aujourd'hui, non. Non. Avec ce que nous voyons à 60%. Et oui, à 40%. Parce que pour notre génération d'aujourd'hui, l'amour, c'est même tu allons au lit. Pour la jeunesse d'aujourd'hui, l'amour, c'est ré. C'est encore que ce n'est pas vrai. C'est je t'aime. C'est où la première chambre de passage par ici. Pour la jeunesse d'aujourd'hui, l'amour, c'est écoute, quand est-ce qu'on va au lit là? Mais c'est ça. Je profite aussi pour répondre à sa question. Sinon, on est en train de parler d'abstinence et quelqu'un s'en va. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Le vrai amour n'existe plus parce qu'on ne comprend plus la définition de l'amour. Et comme le disait la dernière fois le vieux le samedi, il dit, mais j'écrivais des lettres amoureuses que j'envoyais à celle qui sera ma femme. Elle lisait, elle me répondait. La distance n'était pas un obstacle pour eux. Mais aujourd'hui, c'est même tu là, c'est allons à l'essentiel. Ça, c'est le français de la jeunesse aujourd'hui. C'est ça, non? Dites-moi la vérité. Oh. Allons à l'essentiel. C'est ça, non? Et je dis, mais essentiel là, c'est quoi? Oui, allons à l'essentiel. On va développer beaucoup plus ça dans la fornication et l'adultère. Non. Le vrai amour, c'est se connaître, se découvrir, s'accepter, se pardonner. Celui qui aime vraiment peut attendre, n'est pas pressé d'aller à l'acte sexuel. L'acte sexuel, c'est juste quelque chose que Dieu a créé pour unir davantage l'homme et la femme qui sont mariés, pour les rapprocher un peu plus. C'est juste un instant de communion. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et le vrai amour, on va devoir apprendre encore. Il faut qu'on en parle, qu'on en parle, qu'on en parle. Parce que même quand on en parle dans les églises, on dit oui, abstinence, tout ça, encore sans plus trop aller dans les détails. Quand vous finissez là, le gars, il coince la fille de l'autre côté. Sinon, ils sont dans les mêmes groupes. Puis ils se voient quelque part, après la prière, là, c'est en même temps. Tu pasteur, et puis c'est fini. Le vrai amour, il y a aujourd'hui, mais à 40%. Parce que l'école et la rue, lorsque nous éduquons nos enfants, l'école et la rue en fait d'autres choses. C'est comme l'amour. En matière d'amour, l'école et la rue apprennent tout autre chose à notre génération d'aujourd'hui. Et ce qu'on appelle amour n'existe plus. Il n'y a que la perversité, la débauche. Parce que, entre-temps, lorsque vous êtes amis à quelqu'un, est-ce que même vous pouvez sortir pour aller regarder des films ensemble? Comme le dit mon papa, là, il dit les personnes âgées, on les appelle anciens, on ne les dit pas vieux, ou bien anciens. Tu peux. C'est lorsqu'on te demande d'aller puiser de l'eau, là, que lui-même, il est de loin, là-bas, là, tu le regardes sur, tu fais comme ça, zut, tu vas puiser l'eau, tu retournes. Mais pourtant, il t'attend. Parce que ce n'est pas basé sur le sexe. Ce qui est basé sur le sexe ne peut pas durer. C'est comme un château de carton. Ça va s'écrouler. Et c'est pour cela que lorsque les gens rentrent dans le foyer, catastrophe. Parce qu'on n'a pas une image de ce que c'est que le foyer. On n'a pas compris ce que c'est que le foyer. On n'a pas compris ce que c'est que l'amour. On ne se désire plus. C'est bon? Quelle attitude avoir face au drague de la fille de son patron? Très bien. C'est une belle question derrière laquelle il y a une grande révélation. La fille de votre patron qui est mineure, elle qui vous drague, et si parmi tous les employés aussi de votre patron, c'est vous qu'elle choisit de draguer, c'est que vous avez aussi Dieu pour elle. C'est clair. C'est que vous avez Dieu pour elle qu'elle le fait. Et si en même temps, vous ne préservez pas votre vie spirituelle, votre emploi, et que vous vous mettez dans ce jeu dangereux-là, quand on va laisser la Bible, c'est la prison. quel que soit ce qui va se passer, c'est la prison. Pédophilie. Parce que si, c'est pourquoi Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Si vous aimez votre patron comme vous-même, si vous l'aimez parce qu'il est un canal que Dieu a choisi pour vous bénir en vous donnant un emploi, il faut tirer sur la sonnette d'alarme. Le plus tôt serait le mieux. Peut-être que votre patron dans les coulisses, il vous regarde faire parce que c'est un vieux et un ancien vieux. Ou que votre patronne, c'est une vieille de la vieille qui regarde et qui peut-être va vous dévancer beaucoup plus tôt. Donc je dirais, ça là, c'est un jeu dangereux. Il faut rapidement tirer sur la sonnette d'alarme, oser dénoncer rapidement avant qu'il ne soit trop tard, parce que certainement des gens sont déjà allés en prison pour cela, que ce ne soit pas le même cas pour la même personne. Parce que quelque part aussi, la naïveté, l'immaturité et la puberté, la période de puberté dans laquelle cette fille-là est, peut agir sur elle. Et en tant qu'aînée, je pense qu'il serait mieux de dénoncer, de casser rapidement ça, pour être en paix avec son cœur, avec son Dieu et avec son patron. À bon entendeur, oui.
Là, en répondant à la question, vous avez parlé du cas dans lequel la fille elle est mineure. Maintenant, s'il s'avérait que la fille est déjà majeure, alors comment réagir?
C'est une grande question derrière laquelle il y a une grande révélation. Quelle est l'importance de la bague de fiançailles? C'est ce que j'ai dit avant de commencer. C'est une grande question derrière laquelle il y a une grande révélation. Quelle est l'importance de la bague de fiançailles? Bon, c'est pas la bague qui est le problème, mais plutôt, moi j'aurais plutôt aimé quelle est l'importance des fiançailles, plutôt. Parce que la bague, ça symbolise juste les fiançailles. Encore qu'au Bénin, personne ne porte des bagues de fiançailles. Sur 100, à peine, il y a 4 personnes qui font ça. J'ai menti. Est-ce que nous reconnaissons ça? Oh. L'importance des fiançailles, et c'est ça on a dit dans le thème Conseil pratique pour avoir des fiançailles heureuses, c'est la période pendant laquelle l'homme et la femme qui sont appelés à entrer dans les liens du mariage se découvrent, apprennent à se connaître. Quand je dis découvrir, là, attention, découvrir dans l'autre sens, hein, bien, oui, apprendre à se connaître. Parce que au début, on dit, bon, ma petite amie, mon petit ami, c'est ça, non? Et c'est à l'étape où l'homme est attiré par la jeune fille ou la jeune fille accepte peut-être d'entrer en amitié avec cet homme. Après ça, on va un peu plus loin en disant c'est mon copain, c'est ma copine. Si on dit c'est mon copain, c'est ma copine, ça dit qu'on les voit venir. Au moins, maman sait que l'ami de tel, c'est elle, et vice-versa des deux côtés. Et ce n'est qu'après ça maintenant qu'on entre maintenant dans la période des fiançailles. Cette période, c'est une période pour préparer le mariage. C'est une période pendant laquelle, normalement, comme on le dit, la petite dot doit être donnée. C'est ça qu'on appelle la connaissance des parents. Et moi, j'ai toujours dit que ce que l'on fait à l'église, c'est une bénédiction nuptiale. C'est une bénédiction pour consacrer l'alliance au Seigneur. Le mariage, ce n'est pas à l'église. À l'église, on consacre le mariage au Seigneur, ce foyer-là au Seigneur. Le mariage, c'est ce que l'on fait, c'est ce qu'on appelle la dot. Et vous allez voir que souvent, on met mariage entre on met la famille de l'homme, la famille paternelle de l'homme, la famille maternelle de l'homme, la famille maternelle et paternelle de la femme, c'est 4 familles. Et si on peut le dire ici, c'est 4 ethnies parfois. Parce que la maman peut être, par exemple, de Paubert. La maman de l'homme peut être de Paubert, le papa de l'homme peut être de Ouida, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est 4 familles qui s'assemblent pour accepter le lien que les enfants apportent entre les 4 familles. Et pendant cette période, si vous n'observez pas cette période et que vous brûlez l'étape là pour aller au mariage, c'est comme si vous brûlez les examens pour obtenir votre permis de conduire. Vous ne pouvez pas conduire. Même si vous avez déjà appris à conduire, ce qui est sûr au premier carrefour, quand la dame de la paix ou le monsieur de la paix va vous arrêter, il va vous réclamer qui vous a autorisé à conduire. Et c'est là où vous allez sortir votre permis, mais si vous n'en avez pas. Donc cette période, elle est très, 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 très importante. Et pendant cette période, si vous constatez que votre incompatibilité, je ne sais pas dire incompatibilité, que vous ne
qu'il y a de certaines choses que vous n'avez pas encore compris, qui se dévoilent. C'est pendant cette période, normalement, qu'on commence à prier pour consacrer son mariage. Vous dites, Seigneur, si c'est la bonne personne, surtout, nous voulons aller au mariage. Permet par tel ou tel ou tel signe. Vous choisissez le signe que vous voulez. Et vous dites, Seigneur, si c'est ça, je veux tel signe. Seigneur, si c'est ça, je veux tel signe. Je veux que cela se passe dans ta volonté. Si à l'étape là, où on fixe peut-être, on commence déjà par fixer la date du mariage, que Dieu commence à vous révéler un canet de problèmes et que vous vous dites, non, c'est le diable. Seigneur, tu es sûr? Il va vous dire oui. Allez-y. Et c'est là que tout se joue. C'est une période très, 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 très importante. Et pendant cette période, normalement, les fiancés, surtout la femme, doivent fréquenter la famille de l'homme. Et pendant cette période où la femme, la future mariée, s'approche un peu plus de la famille de l'homme, c'est là que les parents commencent par observer. C'est vrai qu'il faut éviter de rester sous l'autorité. Là, c'est dans le mariage. Quand on est dans le mariage, de rester sous l'autorité des parents. Mais il faut accepter leurs conseils pour marcher avec. Surtout quand vous avez des parents, des couples vraiment matures qui vous disent, par exemple, souvent c'est les mamans, attention à cette fille. Des couples vraiment matures qui vous disent, par exemple, souvent c'est les mamans, attention à cette fille. Attention à telle. J'ai constaté telle. Et que vous vous dites, non, ma maman ne l'aime pas. C'est pour, non, 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 pour, c'est pas grave. Hein. Après tout, c'est moi, je veux vivre avec elle. Ce n'est rien. Quand ça va vous piquer comme une fourmi maillant, vous allez gratter. Gratter jusqu'à l'os. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent pendant cette période. Et c'est la période pendant laquelle il faut être très, 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 très attentif. Surtout les hommes. Très, très attentif. Et comme j'ai déjà reçu des gens qui m'ont dit, nous ne voulons pas passer la période de fiançailles, nous voulons aller directement au mariage. Et j'ai dit, quoi? Vous voulez aller directement au mariage? Et ce que j'ai à dire, je le leur dis. Ça n'a pas fait deux semaines, mais c'est trop. Une semaine. Pour que je demande comment vous vous préparez, que l'homme me dise, il faut laisser ça, hein, on va se voir après. Oui, pendant cette période, si votre fiancé commence par faire des cachotteries, où vous devez taper, vous devez demander une permission avant de venir chez elle. Commencez pas à vous poser des questions. Certainement qu'elle a quelque chose qu'elle est en train de cacher. Si pendant cette période-là, elle a des sauts d'humeur, et puis vous constatez que rapidement, ça ne va pas, tout tourne, et puis ce n'est plus comme avant, commencez pas à dire merci Seigneur. En tout cas, tiens-moi encore éveillé davantage. Et l'on ne peut jamais, 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 comme je l'ai dit tantôt, aller au mariage sans passer par là. C'est pendant cette période-là que même l'Église vous surveille. C'est pendant cette période-là que vous allez être beaucoup plus attentif spirituellement pour demander à Dieu, révèle-moi, si c'est la bonne personne, révèle-moi tout ce qui est caché. Et c'est bon de tirer un peu sur cette période, de ne pas arriver là et de faire un mois, deux mois pour dire, bon, c'est terminé, on a fini. Maintenant, on nous a déjà présenté à l'église, c'est le mariage. Non. Pendant cette période, vous pouvez tirer le temps aussi longtemps que vous voulez pour voir si c'est de l'amour que l'autre a pour vous ou si c'est de l'excitation sexuelle. Je veux découvrir, passer à autre chose. Cette période, c'est là où il faut tirer. C'est la période essentielle. Que votre fiancé arrive chez vous, qui est peut-être pressé de partir, ne veut pas voir vos parents, il ou elle ne veut pas en entendre parler, il ou elle ne veut pas du tout les sentir. Attention.
Vous avez parlé tout à l'heure de surveillance de la religion sur et votre vie de couple. Mais si déjà l'homme et la femme ne sont pas de la même religion, est-ce que cette surveillance peut avoir lieu?
Bon, c'est pourquoi je dis toujours que la Bible même le dit clairement. Il a dit qu'un homme de la maison de Lévi a pris pour femme une fille de la maison de Lévi. Lévi. Et Dieu a dit au peuple d'Israël, tout le temps qu'ils étaient dans le désert, ne vous mariez jamais aux Égyptiennes, aux gens d'un autre pays, d'autres religions, parce que vous serez tentés à adorer leur Dieu. Et la Bible dit, ne marchez pas avec les païens de peur que vous ne vous mettiez sous un joug de je ne sais quoi. Comment? De étranger. C'est pourquoi je dis c'est un choix. Maintenant, si vous choisissez, vous êtes chrétien, et vous choisissez de prendre comme une épouse quelqu'un, une femme qui est dans l'islam, vous avez choisi. Mais sachez que pour les hommes, je ne sais pas trop, mais quand vous êtes une femme chrétienne qui épouse un homme de l'islam, si vous ne faites pas le higui, c'est-à-dire si vous n'acceptez pas sa religion, pendant qu'il est en carême, vous ne pouvez pas préparer pour lui. Et je suis sûre que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ils ont dit que, bon, on peut prendre plusieurs femmes. Donc si toi, tu ne prépares pas, l'autre est là. Elle va préparer. Et vous ne pouvez pas supporter. Parce que, regardez par exemple les musulmans. Ils font, excusez-moi, mais c'est la vérité, c'est ce que je constate. Ils font 5 fois la prière. Et souvent, il y a une confusion entre la cuisine, le lieu d'ablution, ou bien d'ablution, et puis de prière. C'est confondu. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas musulman peut supporter ça? Parce que moi, je n'ai jamais supporté. Même avec le peu de temps que le Seigneur m'a permis de passer par là pour comprendre, moi, je n'aime jamais aller à la mosquée faire l'ablution là-bas. Je fais toujours avant de venir. Ou bien j'ai mon bidon d'eau. Parce que quand tu rentres même là, dans la douche, là, toi aussi, il y a tout. C'est du prêc partout. Vous ne pouvez pas vous entendre. Oui, vous ne pouvez pas vous entendre. Donc c'est pourquoi la Bible parle clairement. Maintenant, à vous de choisir. Vous voulez prendre non? Allez prendre. Et vous allez voir ce que ça va donner. Quand Dieu dit non, c'est non. Prenez quelqu'un qui parle le même langage que vous. Quelqu'un qui parle la même langue que vous. Quelqu'un qui comprend les choses avec vous. Quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, du Dieu que vous servez. Et vous marchez ensemble. La Bible refuse. Et regardez le roi Salomon. La Bible a refusé, il a fait. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé avec Salomon? Salomon est tombé à cause d'une femme. Parce qu'à un moment donné, Salomon pensait qu'il est beaucoup plus rusé de pouvoir prendre une femme égyptienne pour éviter l'impôt. Mais rapidement, il a commencé par servir les dieux égyptiens.
Bon, si vous avez déjà fait ce pas, par exemple, c'est beaucoup plus conseillé de casser en même temps la relation, ou bien si la femme accepte venir dans votre religion, que faut-il faire?
Attention, la femme peut accepter quand elle a ses intérêts et elle a envie d'entrer dans le mariage coûte que coûte, elle va vous dire oui. On était à un mariage, je crois, il y a une semaine ou bien deux, et le pasteur a raconté une histoire à la femme. Il dit qu'il y a un monsieur, il a décidé de ne jamais se marier avec une femme. Jamais, au grand jamais, se marier avec une femme. Donc quand il prend, il joue avec. Quand il est fatigué, et il prend encore, au second. Il prend, quand il est fatigué, et c'est son jeu. Mais il y a une femme qui a accepté, qui est venue. Elle lui fait tout. Elle lui prépare à manger. Le matin, avant de se lever du lit, elle a déjà préparé le petit déjeuner, de l'eau à la douche, soumise, fait tout. Pendant un an, 2 ans, 3 ans, alors, le cœur de ce monsieur a été touché. Ah, celle-là, elle est différente des autres. Et un jour, elle est allée dans un restaurant, elle a pris un grand restaurant, c'est un film américain. Je crois qu'il y a Angelina Jolie et je ne sais plus trop qui. Il a pris un grand restaurant pour eux deux. Et il invite maintenant cette femme-là au restaurant. Le soir, la femme est venue, bien habillée et tout. Le monsieur, devant l'orchestre, devant les serveurs, avec une fleur, dit « Veux-tu m'épouser ?» Ah, madame lui dit « Oh oui, pourquoi pas ?» Elle a accepté. Ils ont fait le mariage. Après, ils sont allés chez monsieur le maire, ils ont fait le mariage. Le jour où ils ont fait le mariage, le lendemain, la femme qui est toujours sur pied à 6 heures, même à midi, elle n'était pas encore réveillée. L'homme était le premier à se réveiller. Et l'homme a dit « Ah, chérie, c'est quoi ? Aujourd'hui, là, je suis le premier à me réveiller. » Il dit « À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui me sers. Je t'ai servi pendant 3 ans. C'est à toi de me servir. » Parce que l'homme grand H sait que, surtout la femme, quand on va à la porte du mariage, c'est vite fait. Rapidement, on passe. Mais quand vous voulez revenir sur vos pas, c'est des années de procédure. Les femmes ne sont pas bêtes, hein. Oh, on a mis ça là seulement, hein. Mais elles ne sont pas bêtes. Elles sont rusées. Donc, si tu y tiens, tu dis, bon, c'est marié, elle va te dire, oui, je vais, il n'y a pas de problème. Quand elle passe à l'essentiel. Parce que ce que toutes les femmes veulent aujourd'hui, c'est quoi? Le jour de la robe blanche. Le jour on fait un beau spectacle de mariage. Le jour on lui passe la bague au doigt. Le jour on va la doter, tout le quartier au courant. Ah! on est venu doter telle personne. Si tu vois, il y a eu 4 valises. Si tu vois des séries d'assiettes, la femme aime ça. Toutes les femmes rêvent de ça. Bon. Hein? Oh, Ursula? Ah, ou bien tu veux pas? Arrête. Hein? Arrête. Et puis tout le monde sera en train de dire, voici, voici, oh, oh, oh. Tout le monde a dit, ma première sortie là, c'est l'essai que je veux porter. Deuxième sortie là, c'est bazin. Troisième sortie, oh, je peux être une belle robe. On va attacher gueule et rose. Toutes les femmes aiment ça. Maintenant que tu connais la vérité, à toi de choisir ce que tu veux faire de ta vie. Parce que le mariage, c'est toute une vie. Donc à toi de choisir. Si tu as envie, bon, juste pour... Parce que tu y tiens, laissez ce que le manuel d'utilisation de l'homme dit, et puis tu fais ce que tu veux. Mais je ne serai pas là pour prier avec toi, ça, sois certain.
Oui, madame.
Comment passer ces fiançailles sans le cesse?
Oui, madame.
Oui.
Une question,
mm-hmm.
avant que vous le passiez. Concernant la précédente question à laquelle vous avez répondu,
oui.
ça m'a suscité une question, et je suis amené à demander quelle devait être la durée réaliste des fiançailles. Je parle de durée réaliste.
Durée réaliste, est-ce que ça existe? Non. On dit tout ce que vous faites sans conviction n'est que péché. Si le Saint-Esprit vous convainc de prendre une durée de 2 ans, de 3 ans, prenez. Oui, ça peut être plus. Pourquoi vous êtes pressé? On dit vous voulez, vous êtes appelé, vous êtes décidé à vivre ensemble tout le temps. Mais pourquoi vous êtes pressé de commencer? Plus ça dure, j'allais dire, plus on découvre beaucoup de choses. Et là, tu finis par comprendre. Et tu vas comprendre que réellement, oui, c'est ça. Plus ça dure, et si l'autre n'est pas sincère, vous allez découvrir. Mais quand vous êtes pressé, pressé, ça veut dire que vous vous mariez sur du sentiment, de la chaleur. Oh, je l'aime. Même tu, oui. Et comment vous voulez l'appeler mon chou? Comment vous voulez l'appeler ma carotte? Ma puce? Et quand il y a un gigant? Oui, il n'y a pas de durée. Aussi longtemps possible. S'il y a un conseil à donner, moi je dis, le temps de fiançailles là. Tirez ça, que ce soit bien élastique. Là, vous allez découvrir beaucoup de choses. Ne soyez pas pressés. C'est bon? Comment passer ses fiançailles sans le cesse? La Bible dit que toute relation sexuelle avant le mariage s'appelle fornication. Ça s'appelle fornication. Si un couple ne peut pas résister au cesse pendant ce moment-là, comprenez purement et simplement qu'ils veulent se marier pour ça. Et quand on se marie seulement pour ça, quand on finit ça, on casse tout. Oui, quand on finit ça, là, tout est cassé. Il y a quoi encore? Ce qui doit être préservé, ce qui fait même l'amour, ce qui fait que on est appelé à vivre ensemble, c'est beaucoup de choses. L'être aimé, ce n'est pas forcément se coucher. Ce n'est pas l'acte sexuel seulement. Non. Quand vous aimez, vous avez le vrai amour dont on parle là. Juste vous voir comme ça là, ça suffit. Oh. Parler de votre avenir, ça suffit largement. Quand on va se mettre ensemble, comment on va faire telle chose? Comment on peut gérer telle? Lorsque les enfants vont arriver, à combien d'enfants tu veux? Ah, si on peut avoir telle, c'est bon. Mais si Dieu nous donne plus, c'est bon. Si Dieu nous donne moins, c'est-à-dire discuter des choses concrètes. Mais si quelqu'un ne peut pas résister, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Il semble que quelqu'un a posé une question qui va un peu dans ce sens. Je crois, l'abstinence avant le mariage est-elle risquée? Ce n'est pas risqué. C'est ne pas l'observer qui est risqué sa vie. Toke wazom, 1000 francs, 900, à l'une de l'autre, world wedding. Oui, parce que la Bible dit que notre corps, c'est le temple du Seigneur. Et le temple du Seigneur, nous devons garder ça dans la pureté. Dans la pureté. Et c'est pourquoi c'est dommage aujourd'hui que au mariage, il n'y a plus de femmes vierges. Il n'y a plus de femmes vierges. Et ça ne pose aucun problème à l'homme. Il s'en fout. Oui, il s'en fout. Et puis quand tu vas trop te la jouer, il va te dire, ben écoute là, je ne suis pas le premier à passer par là, non? Et alors, qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Il n'y a plus cette dignité aujourd'hui. Parce qu'avant, le mariage est tellement sacré que lorsque vous dotez votre femme, lorsque vous dotez votre femme, le jour où on passe la lune de miel, l'on doit revenir avec le drap de lit taché de sang. Allô? Et c'est l'honneur pour la fille, pour la femme mariée, l'honneur aussi pour la famille et pour la mère de cette femme. Mais aujourd'hui, la télévision, la civilisation, la mondialisation, la connaissance, et je ne sais quoi encore. Il n'y a plus. Et même les filles vierges aujourd'hui se cachent parce qu'elles ont honte. Oui, les valeurs n'existent plus, oui. Science, pour. Non, il n'y a pas de produit pour avoir de virginité. Ah bon? Expliquez-moi un peu. Ah bon? Ça existe? Ah, moi je suis où dans tout ça là? Apprenez-moi un peu quelque chose. Non, mais c'est sérieux. Moi, je ne suis pas au courant. Mais ce qui est sûr, la copie ne peut jamais être comme l'original. Oui? L'hymen est déchiré. Oui, ça ne peut, l'hymen ne peut jamais être reconstitué comme Dieu a prévu au départ. Donc, ben, c'est impossible. Même si on reconstitue après les relations sexuelles, ça ne peut même plus être la même chose. Hein? Pardon? Mais c'est ça. C'est ça. Ça n'existe même plus aujourd'hui. Et moi, je demande, je dis même, je conseille même aux femmes d'être démodées tout en étant vierges que d'être à la mode. Froissé comme les papiers de je ne sais quoi. Oui, l'homme vous respecte et prend conscience de ce que Dieu lui a donné comme femme. Si tu as une amie, parce que, là, il faut bien me regarder, hein? Là, je te parle personnellement. Et ça, là, à cause de ça, elle part, je te tire un coup de chapeau. Et je prie, je demande au Saint-Esprit de te soutenir encore et de t'accorder celle qui est digne de toi. Ça existe quelque part. Et le Saint-Esprit sait. Et si ce n'est que pour ça, là, qu'elle part, bye bye, oh. Elle a parti. Si une autre vient, et que c'est pour ça qu'elle veut partir, au revoir. Ce n'est pas encore l'heure de Dieu. Oui. Ce n'est pas encore l'heure de Dieu, c'est tout. Oui. Au point où?
Malgré ça, quoi?
Celle qui est en train de partir.
Oui.
À cause de l'abstinence.
Oui.
Oui. Retiens-la. Mais tu vas chercher dans tout Cotonou un conteneur pour garder les problèmes, après tu n'auras pas. Parce que quelqu'un qui, pendant même ça dit c'est même l'amitié, c'est même pas fiançailles, ne peut pas accepter l'abstinence de son partenaire. Ah oh, et vous êtes aussi la femme de tout le monde. Oui, c'est clair. Cette personne n'a pas la crainte de Dieu. Cette personne ne connaît pas la parole de Dieu. Non. Oui.
Elle agit quelque part bien en partant simplement en abandonnant. Sinon, elle reste à côté, elle fait autre chose et puis trompe la vigilance.
Exactement. Quand vous dites qu'on aime cette personne-là, amour aussi, ça c'est les amours de nous deux. C'est les amours de... Alequin, les amours de... De Chiri ou bien je sais quoi. Love, les diabolomantes, marché comme les feuilletons là. Ça c'est les amours de feuilletons. Quand tu gardes, tu as gardé cette femme-là, le jour où tu vas lui dire, bon, je veux m'abstenir pour prier, elle va sauter de la maison, elle t'a trompé, fiant, elle revient encore à la maison, clé, rien ne va se passer. Hé! Mais elle est de nous, clé, elle va te regarder, piam. Quand tu dis un, elle va te dire mille. Et c'est le genre de femme qui commence pas à pleurer. Il m'a traité de. Oh, c'est ton vieux, et non, il y a rien. Laisse-les partir, hein. Je prie au nom de Jésus que ces gens de femmes-là là, soient vraiment loin de toi aussi longtemps que le ciel est éloigné de la terre au nom de Jésus. Aïe, il y en a un réglé qu'on pour rien. On est, hein. Quelle est la plus belle preuve d'amour? Pourquoi vous aimez les romans? Revenez sur terre. C'est mon époux qui dit les gens romantiques là ne font rien de bon. Mais à bien y penser, c'est vrai. C'est pas la vérité. C'est comme si on vous met là, on crée un autre monde, on vous sort de vous-même, on vous blague, on vous baratine, vous, mais vous êtes content. C'est vrai, à bien y penser, c'est vrai, chérie. Et puis vous sortez, et après vous déposez là. Avant d'ouvrir les yeux, il est déjà parti. Il a besoin de faire ça ailleurs. Non, ce n'est pas qu'il ne faut pas être romantique. Non, on peut être romantique, avoir son langage. Chaque couple, chaque personne, chaque partenaire, c'est ce qui fait plaisir à l'autre. On peut le lui faire. Mais il ne faut pas blaguer, comme il dit, les zouks a dormi debout là, les chants, je t'aime, moi non plus, les machins là. Oui, vous aimez trop les romans. La plus belle preuve d'amour. Bon, on peut peut-être dire fidélité si vous voulez. L'épreuve du feu, c'est clair. Parce qu'effectivement, si quelqu'un n'a pas traversé le feu avec toi, c'est pourquoi on dit, le jour où l'argent finit, l'amour s'envole. Allô? Pangamiandou, à son ma tchè, tchè, j'ai des enfants, c'est là où les problèmes commencent. Mais, dans les encore qu'aujourd'hui, les chrétiens ont commencé par dire quelque chose, on se marie pour le meilleur et pour le bonheur. Pour le meilleur et pour le pire. Arrêtez de vous mentir. Pour le meilleur et pour le pire. Arrêtez de vous mentir. Ce n'est pas s'attirer des problèmes, c'est faux. Pour le meilleur et pour le pire. C'est ça l'épreuve du feu. Lorsque vous êtes homme de Dieu, et que votre femme, parce que votre ministère au sol, votre femme s'en va, ça on appelle ça le bonheur. Le pire, oui. Lorsque vous n'avez plus d'emploi, lorsque vous avez des difficultés, lorsque vous avez des dettes, lorsque tout le monde vous abandonne et que votre femme ne peut pas vous soutenir, il n'y a pas de preuve d'amour. C'est bon. Donc, la plus belle preuve de l'amour, là, ce n'est pas les bouquets devant un public. Oui, je t'aime. Ce n'est pas si tu m'aimes, prends cette alliance. Et ce qu'il faut savoir aussi, la jeunesse rêve beaucoup. Nous avons une jeunesse de rêveurs. On croit aux contes de fées. Non. C'est pourquoi vous allez regarder bien. La plupart des couples qui se marient entre 20 et 30, ça ne dure pas. Et donc, commencez par faire attention. Parce que il y a la folie de la jeunesse. On ne comprend rien, on ne prépare rien, on court, on s'y jette. Dieu a permis qu'on fasse l'expérience pour ne pas permettre que vous retombiez encore dans les mêmes erreurs. Non. Plus tard, rapidement se dit, ah, mais j'ai fait une erreur. Ce n'est pas, c'était pas, j'aurais dû. Mais plus ils sont un peu matures, capables de comprendre, d'analyser, de faire valoir leur côté logique, homme, responsable. C'est pourquoi la Bible va nous dire toujours dans les autres, un homme de la maison de Lévi a pris pour femme une fille de la maison de Lévi. Il faut être un homme. Lorsque réellement vous êtes un homme mature et que vous prenez une femme, et c'est pourquoi la Bible même va dire aux hommes de traiter leurs femmes comme des sexes faibles, sachant que c'est des gens de sexes faibles. C'est déjà l'autorité que l'homme doit avoir dans le foyer, là, c'est de ça déjà qu'on parle. Si c'est un bébé qui prend encore un autre bébé, ça va donner quoi? Non? Oui? Il faut allumer le micro.
Allô? Oui. Est-ce que vous pouvez déjà nous lister quelques causes, c'est-à-dire des événements ou bien, je sais pas, des causes qui amènent au divorce après un mariage?
Les causes qui amènent au divorce après un mariage. Bon. Je vais peut-être essayer, puisque vous me demandez. Manque de confiance, de fidélité. On ne va pas lister. Je dis ça comme ça. De confiance, de fidélité, de communication. Ne pas partager la parole qui est la vie. Parce que c'est Christ qui est le fondement. Et comme on le dit, une corde à trois fils ne peut pas laisser tomber une masse qui est dessus. Et enfin, on dit à toi, ton nom, non, raisin, mais non, bah. Oui. Il y a beaucoup d'autres choses. Et quand l'homme ne prend pas conscience de ce que la Bible dit par rapport à sa position de chef de famille et délègue son pouvoir, son autorité à la femme, ils iront au divorce. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand quelqu'un disait pourquoi la femme ne s'implique pas, quand vous commencez certaines choses, c'est fini. Le manque de respect dans le foyer, les mauvaises fréquentations, qui influence le couple et amener au divorce. Il y a beaucoup de choses qui peuvent amener au divorce. Beaucoup, 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 beaucoup. Et si je reviens encore là, pour ça, l'autre chose aussi, il n'y a pas que l'adultère, tout ça là, qui amène au divorce. Il y a aussi les frustrations qui amènent au divorce. Quand la femme n'a pas son mot à dire, quand elle se sent esclave, quand elle se sent prisonnière, quand elle se sent bafouée, beaucoup d'autres choses peuvent aussi amener au divorce. Et quand les jeunes couples se mettent ensemble, il faut beaucoup éviter ça, là c'est surtout les femmes. Les hommes aussi ont commencé par le faire, mais c'est les femmes qui le font plus. Ah non, maman, il m'a fait telle chose. Ah, ma copine, tu sais, hier, il a fait ci. Ah, ma tante, hey, c'est comme ça. À force de poser tous les problèmes de couple là, dehors, en dehors du couple, ça favorise le divorce. Parce que tout le monde aura son mot à dire. Votre couple devient un terrain public de football où n'importe qui viendra jouer à n'importe quel moment et il n'y a plus rien. Et c'est pourquoi la Bible va bien dire l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et l'autre chose aussi qui fait que les conjoints vont souvent poser des problèmes en dehors du couple à n'importe qui et à n'importe quel moment, c'est que l'on ne connaît pas l'utilité des parrains de ménage. Les parrains de mariage. Ce phénomène-là, aujourd'hui, a été transformé. Aujourd'hui, dans l'église, quand quelqu'un veut se marier, on veut avoir comme parrain juste un bailleur de fonds. Ce n'est pas un parrain, mais on veut un bailleur pour le mariage. Un parrain qui est capable de nous offrir la robe de la mariée, un parrain qui est capable de faire les cartes d'invitation, quelqu'un qui est capable de laisser sa voiture, quelqu'un qui est capable de s'occuper de l'esthétique de la femme. Les mariés n'ont rien prévu comme budget pour leur mariage. Qui vous a demandé d'aller faire des mariages comme les autres? C'est forcé? Vous n'êtes pas obligé de vous exposer? Non! Les parrains, normalement, les fiancés, pendant leur fiançailles aussi, surtout quand ils ont commencé déjà par programmer la date de leur mariage, doivent aussi prier, demander au Saint-Esprit qui peut nous parrainer en vérité selon la parole de Dieu. Parce que les parrains, c'est comme des coachs. Ils sont comme des coachs, des arbitres. C'est pour ne pas aller parler à tout le monde. Mais un parrain, et la marraine normalement, c'est des gens vers qui vous devez aller, des gens qui doivent avoir la crainte de Dieu, des gens qui, c'est vrai, ils ne peuvent pas être parfaits, mais des gens dont déjà le couple reflète la gloire de Dieu, qui peuvent vous cocher, vous donner des conseils chaque fois, vous apprendre la parole, vous référer chaque fois par rapport à vos problèmes à la parole. Et c'est un peu comme des parrains spirituels. Ils ont le devoir. C'est pourquoi quand quelqu'un vient me dire, je veux que tu sois, que vous soyez notre parrain, je dis, oh, Azo, Adjaban, Melea. Parce que les parrains ont le devoir de s'occuper spirituellement de ce couple-là. Oui. Et lorsque vous avez, vous priez, vous demandez à Dieu, et il vous accorde un bon parrain, comme cela doit l'être, là, si vous avez un problème, l'homme peut le poser au parrain. La femme doit être plus proche de la marraine. Et ensemble, on discute des problèmes. Mais avant même d'aller vers les parrains, vous devez développer votre communication interne. Votre communication interne. Moi, je n'ai jamais posé de problème à ma belle-mère. Et aujourd'hui même, je n'en ai plus jamais posé à ma mère. On n'a pas de grands problèmes, je rends grâce à Dieu. Mais les petits conflits parfois, tout ça, on se le règle entre nous. Parce qu'on a appris à communiquer. On ne laisse pas les petits problèmes pourrir dans le couple. Non, il faut percer l'abcès très rapidement. Et en matière de communication, il faut savoir pardonner. Il y a des secrets pour réussir aussi son couple. Savoir se pardonner mutuellement. Oui, celui qui aime doit pardonner. Mais ce n'est pas parce qu'on parle de pardon que les hommes, là, c'est surtout eux. Ils vont courir, aller faire, revenir. Oh, chérie, tu sais, vraiment, je vais te faire un aveu. Je ne savais pas, hein. La fille de mon bureau, là, vraiment. Oh, vraiment, aujourd'hui, là. Maintenant, là, je suis tombée. J'ai pardon. Je t'en prie. Je ne vais plus faire. Prie pour moi. Prions ensemble. Ce n'est pas ça, hein. Ça, c'est du folklore. Ce n'est pas parce qu'on a parlé de pardon qu'il faut faire ça. Et ce n'est pas parce qu'on a parlé de pardon aussi que la femme. Encore que les femmes, là, quand elles commettent l'adultère, elles n'aiment pas dire, ils n'ont pas. J'ai subi une fois une communication entre deux femmes. Et nous, il y a goudi, et nous, 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 elles vont pleurer. Oui, venez voir. Alors qu'elle a bien fait. Tu lui demandes de jurer, elle va jurer. Heureusement que Dieu, il est là. Et il juge, il a son dernier mot. Donc, dans un couple, vous devez apprendre à vous pardonner. Et les hommes ne savent pas dire à leur femme, beaucoup d'hommes hein, ne savent pas dire à leur femme, « Ah, je n'ai pas raison, pardonne-moi. » Oui, les hommes là, ils ne savent pas dire ça.
Ok, après tout, c'est l'homme.
Ils peuvent parfois, à travers leurs actes, te dire pardon, mais dis, j'ai tort, je reconnais que j'ai tort, pardonne-moi. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. À mon nom, de mes bébés, je dis, oui, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Oh, laisse tomber. Oh. Attends, Jack Bakodi, il y en a Rouzou. Moi, Malone Rouzou. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Oui. Et pour vous dire, moi, j'avoue que, bon, c'est vrai, on a eu à faire des erreurs avant que Dieu ne nous restaure. Mais le jour où moi, j'ai entendu mon époux dire, je reconnais que j'ai tort, pardonne-moi. Est-ce que j'ai pu fermer la bouche après? Parce que je n'en ai jamais entendu. Non. Les hommes n'aiment pas le dire. Mais les femmes, oui. L'autre chose aussi, quand vous êtes dans le couple, il ne faut jamais laisser un problème dormir sous vos toits. C'est pourquoi la Bible va dire que le soleil ne se couche point sur ta colère. Ça va pourrir. Quel que soit le problème, il faut percer l'abcès. Apprenez à vous faire confiance et à vous parler de toutes choses, de tout. Surtout quand vous êtes dans un couple et vous êtes des hommes et des femmes mariés, dites toujours tout. Les hommes vont dire, non, on ne peut pas tout dire à la femme. Non, dites toujours tout. Et c'est ça qui va vous sauver. Moi, je n'ai pas de cuisine interne. Donc, c'est comme je dis à certaines personnes, quand vous me dites quelque chose, là, et vous pensez que je ne vais pas dire à mon époux, il vaut mieux ne pas me dire. Ça, c'est clair, il a rondoi. Oui, même parfois, parce que Dieu a permis qu'on ait un mode de communication très, très pointu. Et on se dit tout. Et c'est ça ce qu'on appelle le vrai amour. Quand vous vous aimez vraiment, il n'y a pas de secret. On dit, ah, ça là, c'est pour moi. Il n'y a pas de secret. Même si c'est un problème dans ma famille, j'ai le devoir de dire à mon mari, qui est le chef de la famille, qui est mon maître, parce que Dieu l'a établi, le patron de la maison. C'est lui qui me coiffe. Parce que quand je suis rentrée dans les liens du mariage, mon nom, c'est pourquoi on dit le nom de jeune fille. J'ai pris un autre chapeau. Je le lui soumets. Et ensemble, on trouve une solution. Mais si on n'est pas d'accord, peut-être sur un sujet familial ou je ne sais pas quoi, je peux toutefois dire, ma famille, c'est ma famille. Personne ne choisit sa famille. Personne ne choisit son père et sa mère. Personne ne choisit ses frères. C'est Dieu qui donne. Et Dieu donne le fardeau qu'il veut à qui il veut. La communication, ça fait éviter beaucoup de choses. C'est comme il disait le samedi dernier, quand on faisait le dîner sur les couples, il a fallu qu'un jour, j'ai une révélation. J'ai eu la révélation, je me suis mise à prier. J'ai prié, mais je n'en ai pas parlé. Et comme je n'en avais pas parlé, après, j'ai commencé par avoir des signes au moment où, ensemble, puisqu'on se dit toujours tout, il a eu à rêver. Après, il m'a raconté son rêve. J'ai dit, tiens, il y a eu tel. Ça peut paraître ridicule. Ça peut paraître, peut-être, on peut dire que c'est pas jalousie que la femme dit ça, mais toujours non. Mais quand j'ai dit, j'ai eu tel, et après tel, ça suffit pour qu'on comprenne que, attention, il y a tel piège qui est en train d'arriver. Il y a telle chose qui est en train d'arriver. Et quand vous êtes comme ça, une autre personne ne peut pas entrer dans votre couple. Il ne peut pas y avoir de problème. On n'a pas de cuisine interne. Non, pas de cuisine interne. Puisqu'on est appelé à vivre pour l'éternité, pour toujours. Et les hommes vont dire, ah, quand on a beaucoup d'argent là, on ne dit pas à la femme. Ah oui, elle va commencer par faire les calculs dans ta poche. C'est oui et puis c'est non. Non. Lorsque vous avez déjà préparé votre couple, marché selon la parole, ce que la parole dit par rapport au couple, vous devez avoir confiance. Si vous n'avez pas confiance, pourquoi vous dormez à côté d'elle? Elle peut vous tuer, non? Ça là, c'est question de seconde, non? Oui. Eh oh, oh. C'est vite fait. La personne te donne à manger. Elle se couche à côté de toi. Tes habits là, c'est elle. Tu Et elle est là. Et tu dis que tu n'as pas confiance. Si elle veut te tuer, elle va te tuer. Ou bien, elle va te tuer. Habilement même. Et tu ne sauras jamais. Parce que si vous vous aimez, il doit y avoir la confiance. C'est clair. Et les hommes, c'est mutuel. Les hommes et les femmes, les partenaires, doivent témoigner chaque fois leur amour. Le mot « je t'aime » là, oui, la phrase « je t'aime » là, c'est pas long. Oui, apprenez à faire des compliments à l'être aimé dans le couple ou peut-être, je ne vous demande pas d'aller chercher les enfants d'autrui dans les coins de rue pour dire « c'est ma petite amie, viens ici, je t'aime ». Je ne suis pas dans les affaires comme ça. Hein. Mais viens ici, je t'aime. Allez, couche-toi là. C'est pas ça là. Hein. Parce que ça là, vous aimez trop. J'ai vu une go maintenant. Hey, je te dis, ça, je ne vais pas rater. Ou bien, oh, parlez. Pourquoi vous jouez au timide? Hein? C'est ça, non? Ou bien, elle aussi, quand elle attrape son micro à l'église, « Seigneur, Seigneur, Seigneur !» Et puis vous aussi, vous regardez. Vous êtes content. Celle qui chante, celle qui fait adoration, celle qui a fait adoration le dimanche dernier, là, tu as vu? Si vous voulez faire du sérieux, vous devez apporter ça devant Dieu, vers les aînés, vers vos devanciers, dans l'église. Et c'est ce qui est mauvais qu'on cache. Ou bien, et quand vous commencez pas à cacher quelque chose, vous allez tomber. Ça, c'est clair. Comment maintenir, on a déjà dit ça, l'abstinence. Non, comment maintenir l'abstinence jusqu'au mariage? C'est simple. Par la prière, par la crainte de l'Éternel. Prochain séminaire. Donc, on m'essouffle ça. On va répondre au prochain séminaire. Comment sortir d'une relation sexuelle avec quoi? Une voisine, j'allais mettre. Une voisine. C'est ça que l'on appelle fornication. Hein? Et avant de répondre, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un vieux de Sabalou, là, il est marié. Il n'est pas allé à l'école. Et il a une maison. Donc, il a des locataires. Et il a une jeune fille. Et après, on lui a dit que sa fille Céline, là, son locataire, en plus, qui ne paye pas bien son loyer. En plus, qui ne paye pas bien son loyer, est en train de coucher avec. Papa regarde jusqu'à, il ne sait pas comment il va dire. Il sort, il va se saouler la gueule. Il revient. Et il demande d'aller appeler le locataire vient. Et il dit, ah, ça a foutu, elle a. Après, je vais t'expliquer ça en français. Et il dit, Jackie Vio, Rio Wafi. Et Raya Hoche Noé, au fichier, c'est lui, Vio, et Raya Noé. Bon, autant, au cours de son quoi, et remédie, avant si tu es Choba, on a eu. Et remédie, avant si tu es Choba, on a eu. Et ça là, c'est un péché, hein? C'est un grand péché. Et pour sortir de là, là, il vaut mieux dire à la voisine, ah, on a mal fait. Ça, je ne savais pas. Mais là où nous sommes là, arrêtons. C'est pas bon pour elle. Ni pour elle, ni pour l'homme. Ni pour elle, ni pour l'homme. C'est ça, quand on commence comme ça, là. C'est ça, on dit enfant, love you, we dit. Quand vous commencez comme ça, grossesse arrive. Grossesse arrive, c'est là où on trouve les bébés sur les tas d'ordures. Grossesse arrive, on dit, bon, on va faire l'avortement. L'avortement, Dieu a dit, il a sanctionné l'avortement. Tu ne peux pas faire ça, tu as tué quelqu'un. C'est égal à un meurtre. Non. Et là même, là où c'est un péché, ça dit, l'enfant d'autrui, là, en a doué à rien. Le voile est considéré, le voile est mon rendez-vous. Si Dieu permet que vous écoutez tout ça, là, il faut dès aujourd'hui mettre fin à cette relation pour dire non. Et si vous ne pouvez pas, dites alors, Saint-Esprit, aide-moi à mettre fin à cela. Organise la fin de tout cela. Et quelle que soit la tentation que vous aurez après, résistez et demandez au Saint-Esprit de vous aider. Vous allez résister. J'espère que ça aussi c'est bon. Il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui. Hein? Ah, apparemment, c'est demain qu'on viendra ici. Comment savoir si une relation est dans la volonté de Dieu? Ça là, on a déjà dit ça plusieurs fois ici. Est-ce que avant de commencer la relation, vous avez demandé à Dieu? Ah, pourquoi ça vous fait rire? Ah, hein? Ou bien, c'est vrai en plus, non? Avant de commencer la relation, si vous avez dit, oh, papa Dieu, toi qui es en haut là-bas, là, est-ce que tu es d'accord? C'est fait? Et il a dit quoi? Hein? Hé, hey, l'appétit ne vient pas à manger, hein? Jamais, hein? Pas dans ce cas, hein? Comme je le dis toujours, c'est vrai que une bonne femme est un cadeau de Dieu. Pour qu'une bonne femme soit un cadeau de Dieu, il faut savoir quel est le temps de Dieu. Et pour connaître le temps de Dieu, il y a aussi des choses que nous devons faire, notre part humaine. Notre part humaine, c'est ça je dis, il faut être un homme mature, précis, responsable, qui peut au moins prendre quelqu'un à côté. C'est toi-même là, tu n'as pas la capacité de payer le loyer. Et tu vas chercher fille de quelqu'un pour dire, viens, on va partir quelque part. Vous irez où? Si ce n'est pas dans le mur. Il faut un certain nombre de choses. Notre part humaine, là, il faut faire ça d'abord. Mais aujourd'hui, la jeunesse ne veut plus, c'est-à-dire, quand je dis la jeunesse, c'est-à-dire jeunesse côté des hommes, ne sont plus matures, responsables, boulot stable, tout ça. Ils ne sont pas prêts. Mais ils veulent prendre l'enfant de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela, la dot, on voit la femme courir pour demander à quelqu'un, donne-moi deux bouteilles de, quoi, comment on appelle? Elliot, et l'homme coupe dit, on n'a pas l'argent, hein, mais pardon. Dieu qui donne la vision accorde toujours la provision. Si vous avez une vision et que vous n'avez pas les provisions, commencez par faire attention. Et avant de commencer, il faut toujours demander l'avis de Dieu. Si vous ne demandez pas l'avis de Dieu, puisque Adam n'a jamais dit, Dieu, tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu que j'ai des barbes? Et là, tu n'as pas vu que je suis seul dans le jardin? Adam à aucun moment n'a dit ça à Dieu, ne l'a rappelé. C'est Dieu qui a regardé Adam. Adam travaillait dans le jardin. Mais quel travail vous faites aujourd'hui dans le jardin d'aujourd'hui, le monde, pour prétendre avoir une femme? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Parce que quand Dieu a mis Adam dans le jardin, Adam travaillait, il ne dormait pas. Il passait ses journées à travailler, à donner des noms aux animaux, à toutes les créatures de Dieu, à faire ce que Dieu dit, à arroser, passer de l'autre fleuve à l'autre, pour faire ci, pour faire ça. Adam travaillait. Et si la Bible dit que nous allons manger la sueur de notre front là, c'est quoi ta sueur? Tu n'as encore rien. Ton front n'a même pas encore sué. Et tu prends l'enfant d'autrui. Non, Adam travaillait avec joie. Et il obéissait à tout ce que Dieu lui demandait de faire. Donc, il marchait alors dans la volonté de Dieu. Et c'est là que Dieu a vu, oh, mais ce gars-là, il travaille. Et en plus, avec zèle, il lui faut une compagne. Et c'est là où Dieu le frappa d'un profond sommeil. Adam n'a jamais demandé à Dieu, crée-moi une compagne, une femme, j'en ai besoin, tu n'as pas vu que je vieillis. Mais aujourd'hui, c'est ça en fait. Oh Dieu, toi aussi. J'ai commencé pas à travailler il y a six mois là, il y a un an là, il y a deux ans là. Mais tu ne vois pas? J'ai déjà une maison, je suis capable de louer une maison. Tu ne vois pas? Tu peux être capable, tu peux travailler, tu peux avoir même les ressources qu'il faut pour prendre une femme. Mais si ce n'est pas le temps de Dieu, attends. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui se sont mariées après 40 ans. Est-ce qu'ils sont morts? Ils ont eu des enfants, non? En fait, le mariage, ce n'est pas une affaire d'enfant, ce n'est pas une affaire de bébé. C'est une affaire d'adulte, de mature, des gens matures. Et c'est là que Dieu frappa Adam d'un profond sommeil et enleva de ses côtes une côte pour fabriquer Ève. Et c'est à son réveil, quand il a fini de travailler, il est revenu, il s'est couché, il dormait, il s'est réveillé, il a vu le cadeau de Dieu. D'où une bonne femme est un cadeau de Dieu. Quand vous attendez Dieu, ce qui vous amène, c'est un cadeau. Mais quand vous courez vous-même pour le devancer, courez bien. Mais après, c'est votre vie qui en dépend. Mais aujourd'hui, on est pressé. C'est le mariage. C'est le mariage. Encore que quand on est pressé, ce n'est pas sur du solide. Hein? C'est pour au moins avoir une moto Jenanala, pouvoir la remorquer dessus, pouvoir aller à Fijoncel les dimanches, à la plage, pouvoir acheter Shawama à Zitaoui là-bas, là. Pouvoir se balader, venir à l'église ensemble, c'est tout. Oui, quand vous posez la question à tous les jeunes d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu veux te marier? Il n'y a rien de concret. Je suis sûr que quand je vais me mettre à faire ce jeu-là dans cette salle, catastrophe. C'est sûr. Pourquoi voulez-vous vous marier? Répondez-moi. Tu veux répondre? C'est ça. Pourquoi sommes-nous pressés? C'est toute une vie. C'est tout un monde. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Pour savoir, bon, voilà. Donc, si vous attendez le temps de Dieu, c'est sûr que vous êtes dans sa volonté. Maintenant, si vous avez, comme vous dites souvent, on a prié, mais je suis sûr que tu n'as pas rêvé pour... Tu n'as pas rêvé. Hein? Tu as rêvé. Tu l'as vu dans un rêve. Hein? Si j'allais te demander à toquer, hein? C'est pas, tu as rêvé. Et vous mettez tout sur Dieu. Quelqu'un là, on dit, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu a dit, le phénomène de Dieu m'a dit. C'est ça qui parcourt toutes les églises aujourd'hui. Dieu m'a dit. Dieu t'a dit où et quand? Hein? Ah, quand je dormais, et dans mon micro dormi, giflez-les. Dites-le que vous n'êtes pas des monstres, ni des sorciers. Maintenant, quand vous-même, vous choisissez, ou bien dans votre tête, vous savez avec précision ce que vous voulez, soumettez maintenant cela à l'Éternel. Mais quand vous soumettez à Dieu, tout ce qu'il va vous dire, il faut écouter. Dieu peut vous parler, comme on a dit, quelqu'un avait déjà demandé si c'est ça, alors comment est-ce qu'on peut entendre Dieu? Dieu n'est pas toujours dans, ça dit le tonnerre ne va pas gronder, brah. Je suis Dieu et tu m'as demandé si c'est ton épouse, oui ou bien non. Tu vas attendre longtemps, tu vas attendre longtemps, très longtemps. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est là où c'est vrai que beaucoup de gens exagèrent. Il peut vous montrer ça par un songe. Il peut vous montrer ça par mille manières. Oui, par mille manières quand vous lui parlez. Vous pouvez lui demander des signes. Il va vous donner des signes, vous allez comprendre. Il dit, Celui qui le cherche, il se révèle à eux. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, pour savoir si vous êtes dans la volonté de Dieu, ce que vous avez choisi, soumettez alors cela à Dieu. Et quand vous mettez à prier et que bon, ça ne va pas ou Dieu vous révèle quelque chose, ayez le courage d'accepter ce que Dieu vous dit. Même si ça fait mal. J'ai une de mes filles, bon, il y a un homme de Dieu avec qui elle a débuté ses fiançailles. Bon, si on peut dire ses fiançailles ou amitié, je ne sais pas. On peut même dire fiançailles. Hein. Et les deux, ils sont des chats échaudés. Ils ont déjà eu chacun un ménage qui n'a pas réussi. Et voilà aujourd'hui, bon, les deux, ils m'en ont parlé. J'ai dit, bon, prions et demandez la volonté de Dieu. On a prié. C'est vrai que moi, j'ai eu des révélations, tout ça, mais je ne lui en ai pas parlé. Toujours est-il que mon époux et moi, on a toujours prié pour dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Si ce n'est pas ça, encore que lui, catégoriquement, il m'a dit, cette femme-là ne mérite pas celui-là. Non. Mais ils sont restés, je crois, ensemble, ça fait déjà six mois ou sept mois. Et ils voulaient même aller au mariage normalement à la fin de cette année, déjà. Ce qui est déjà trop précipité, à notre avis. Mais ce n'est qu'à la dernière minute, la femme dit, je ne suis pas convaincue parce que je ne l'aime pas. Mon cœur est fermé. Je n'ai pas d'amour pour lui. Quel que soit ce qu'il fait, je ne l'aime pas. Mais je n'ai pas compris. Et je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors qu'il ne m'a rien fait. Et là, elle priait. Ce n'est que 7 mois après que Dieu lui a révélé, là, regarde, c'est là où je veux t'amener. Et quand elle a eu la révélation, elle a dit à la personne, oh, d'une façon vraiment, elle a dit, brute vraiment, brute. Elle n'a même pas ajouté un peu d'eau. Elle dit, mon gars, Dieu n'est pas d'accord. Je ne suis pas convaincue. Arrêtons dès aujourd'hui la relation. L'homme a failli mourir. Il a failli faire une crise cardiaque. Ça là, je vous dis la vérité. Hein? Et ce n'est qu'hier seulement l'homme me dit, elle a dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ah, mais toi tu es un homme de Dieu, non? Elle dit que Dieu ne lui a pas donné en fait la conviction de faire. Il lui a dit que ce n'est pas à toi. Mais c'est fini de prier. Mais là, quand je le voyais partir hier, j'avais pitié de lui. Parce que vraiment, il avait mis son espoir, son cœur, sa tête, même son ministère peut-être. Et là, je suis fière de cette fille-là. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas? Il dit, mais non. Ah, elle m'a dit, maman, yo, Dieu n'est pas d'accord, c'est fini, non? Si Dieu n'est pas d'accord, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne peux rien faire. Si Dieu n'est pas d'accord, c'est fini. Mais je suis fière d'elle. Et si moi je suis fière d'elle, c'est sûr que le Seigneur aussi sera très fier d'elle. Parce qu'elle mérite effectivement plus que ça. Mais nous, quand Dieu nous dit attention, ce n'est pas ça. La révélation qu'elle a eue, c'est à travers un songe. Et elle a compris. Si c'est nous, on va dire, oh, bon, c'est juste que j'ai rêvé. Hein. Est-ce que ce n'est pas que, bon, je me suis endormie sur les problèmes d'hier. Est-ce qu'on ne commence pas à chercher des raisons? Chercher bien des raisons et trouver-en. Oui. Les songes pour lesquels on n'a pas de discernement, c'est-à-dire les songes qu'on ne comprend pas. Vous savez, c'est vrai que tout rêve, j'allais dire, ne vient pas de Dieu. Mais il arrive parfois, vous rêvez, vous vous réveillez, mais c'est un peu comme, comment je dis, vous vivez, vous réveillez, mais les premières minutes après votre réveil, vous vivez encore le truc, le songe comme si c'était là. Et je ne sais pas. On se dit, on a une conviction, le Saint-Esprit te convainc. Tu peux ne pas avoir l'explication, mais tu es convaincu que ça, c'est Dieu. Commence par prier et demande à Dieu si c'est sa voix. Demande au Saint-Esprit si ça vient de lui. Si c'est réellement le Saint-Esprit, c'est-à-dire il va organiser même physiquement des choses pour appuyer le rêve. Si par exemple on prend le cas de Eric, où l'autre dimanche, il a eu un rêve et il nous a dit, le lundi, on a prié pour ça brièvement le matin, mais le lundi, on l'a appelé pour avoir encore d'autres détails. Et quand il disait, j'ai rêvé et il y a eu un accident. Je suis venu à Global et il y avait plein de gens, mes collègues étaient en bas et je suis arrivé, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, il y a eu un accident. Et j'ai dit, quel genre d'accident? On m'a dit, un accident très très grave et il y a même eu des pertes en vie. Et il paraît qu'il a demandé qui était... avait fait l'accident, on a dit, bon, on lui a cité 5 personnes, dont certaines personnes. Et quand on lui a dit ça, il était monté, il m'a vu, mais j'avais l'assurance, telle que je l'ai regardé dans le rêve, j'avais une assurance que c'était un peu comme si rien de la sorte ne s'était passé ou que ce n'était pas si grave. Oh, tout le monde en parle que c'est très grave. Apparemment que même les journaux, un peu dans le genre, les journaux ou bien les radios en ont parlé, mais que j'avais une assurance que rien du genre ne s'était passé. Et tout de suite, c'est sûr que lui-même, il n'avait pas compris. Mais tout de suite, moi, j'ai dit, ça peut ne pas être un accident comme ça, mais ça peut être un accident dans le travail, mal faire quelque chose, une procédure ou quelque chose. Mais on a prié. Mais le lendemain, il y a eu effectivement un accident à Global. Et on rend grâce à Dieu parce que Dieu l'a révélé et il a permis, même les prières que nous avons faites, même si on n'a pas consacré assez de temps, on a prié, mais ça a permis quand même que ce ne soit pas une perte en vie humaine. Parce que ce qui est arrivé en temps normal, c'est la mort. Donc, pour tout rêve, sachez que c'est un fardeau de prière. Priez en même temps. Si vous ne savez pas comment vous allez prier, priez en langue. Si vous ne pouvez pas prier en langue, dites à Dieu ce que je viens de voir, si c'est quelque chose à éviter, que ton Esprit Saint soit avec nous. Priez quand même. Et vous allez voir, quand vous allez prier, soit Dieu vous montre la situation pour vous dire, attention, pour vous rappeler que vous êtes un instrument qu'il utilise. Il vous répond à travers vos songes. Et commencez par faire attention. Et si vous n'avez pas le discernement, si vous ne comprenez pas, priez. Dieu ne peut pas forcément donner à quelqu'un, il donne parfois les songes et les explications, mais parfois il te donne, et c'est une suite logique. C'est avec peut-être le concerné que tu auras l'explication, que tu auras la suite, ou que ce soit quelqu'un d'autre. Ça dit, il a de la valeur, c'est pas... Lui-même, il dit, c'est celui qui te cherche. Quand quelqu'un dit, cherche-moi, est-ce que la personne se laisse au bord de la voie, comme ça, n'importe qui? Non. Développez votre alliance avec lui. Ou sinon, priez et demandez à Dieu de vous donner le discernement. C'est bon? Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On va se tenir sur nos pieds et prier.
Merveilleux Père de gloire et de grâce, Saint-Esprit de Dieu, nous venons encore à tes pieds te dire merci. Merci Seigneur parce que tu étais avec nous depuis hier. Merci parce que tu es resté puissamment avec nous aujourd'hui. Merci parce que tu nous as encore conduits dans la découverte de la vérité. Merci parce que tu nous as encore édifiés, tu nous as conseillés, tu nous as coachés, tu nous as formés. Merci Seigneur parce que même quand nous ne sommes pas ici, tu continues de nous parler, tu continues de nous instruire, de nous montrer la voie à suivre, de nous dire quand il faut aller à droite, quand il faut aller à gauche. Qu'il te plaise Seigneur d'accepter nos louanges et nos actions de grâce pour tout ce que tu fais d'extraordinaire dans nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais de nos vies, que tout ce que tu fais de bon, tout ce que tu fais d'agréable, mais aussi tout ce que tu fais de désagréable, car nous n'acceptons pas à la foi que tout concourt à notre bien. Qu'il te plaise Seigneur de nous donner dans la grâce, de nous donner la grâce d'avoir le discernement, d'avoir la sagesse pour comprendre tes voies. D'avoir la grâce de t'écouter, la grâce de discerner ta voix. Donne-nous, Père Tout-Puissant, de faire taire tous les vents, toutes les tempêtes qu'il y a dans nos cœurs, les tempêtes de jalousie, de frustration, d'aigreur, de crainte, toutes ces choses qui nous perturbent, toutes ces choses qui font tempête dans notre cœur et qui nous empêchent de t'entendre. Donne-nous de te louer en toutes circonstances, d'être joyeux. Donne-nous en toutes circonstances de te louer, de te remercier parce que tout ce que tu fais est très, très bon. Ô Seigneur, donne-nous la grâce de t'être intime, d'être en parfaite communion avec toi. De te connaître, de te découvrir davantage, de t'aimer. Donne-nous la grâce de t'obéir. Donne-nous la grâce de remporter tous les jours des victoires contre Satan, cet ennemi qui rôde, mais qui a la défaite déjà en Jésus-Christ. Ô Seigneur, merci parce que tu nous as justifiés. Merci parce que devant le tribunal céleste, tu as obtenu notre acquittement sans qu'il ne soit possible à Satan de faire appel. Oh, merci Seigneur parce que nous savons que nous sommes sauvés. Nous savons que nous sommes rachetés. Nous savons que notre pardon est acquis. Nous savons que notre paradis est certain. Nous savons Seigneur que nous combattons non pas pour la victoire, mais dans la victoire. Nous te remercions pour cela Seigneur. Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir animé par Edgar Guidibi et Hermione Huygon. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe ?